y a personne qui a besoin d'autant d'argent. Donc, ni nous, ni nos enfants, ni personne. Et puis, il y a tellement de problèmes dans le monde, de gens qui souffrent, de gens qui pourraient faire des choses de leur vie, pour eux, leur famille, l'impact qu'ils auraient, extraordinaire et tout. Donc, il y a tellement de choses fantastiques qui peuvent être faites. Je ne comprends pas les gens qui ont beaucoup d'argent et qui le gardent ou qui essaient de le faire grossir, etc. J'ai aucun intérêt d'être l'homme le plus riche du cimetière.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où l'on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Merci de votre fidélité et d'être de plus en plus nombreux à nous rejoindre chaque semaine. Chaque épisode est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont des artistes, des chefs d'entreprise, des écrivains, des entrepreneurs, des sportifs ou des activistes. Et ils ont accepté le temps d'une pause de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'engagement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Vous êtes en pause, soyez les bienvenus. Cette semaine, j'ai le plaisir de vous proposer une pause avec quelqu'un que je ne connaissais pas, mais personne ne connaissait réellement avant mars 2020. Et puis, j'ai entendu parler de lui tous les jours. Nous avons entendu parler de lui tous les jours. Pourquoi ? Parce qu'il était présenté comme le Français qui allait sauver le monde. Originaire de Marseille, il choisit d'évoluer au sein du monde pharmaceutique après son diplôme en génie chimique de l'École centrale de Paris, passé par bioMérieux et le groupe américain Lilly. C'est en 2011 qu'il se lance dans la grande aventure de Moderna. Si les premiers temps sont très compliqués, la Covid marquera un tournant colossal pour la biotech et la guidera à la Maison Blanche où il a promis un vaccin contre l'épidémie en quelques mois, une promesse qu'il a tenue. Le temps d'une pause, le géant des vaccins évoque son parcours, le futur de Moderna, les dessous du développement d'un vaccin, ses espoirs quant à l'éradication, oui, l'éradication d'un grand nombre de cancers, sa rencontre avec Donald Trump, et puis il nous parlera aussi de ses activités philanthropiques. Bonjour Stéphane Bancel.
Bonjour Alexandre.
Comment tu vas ?
Bien, je suis content d'être avec toi.
Tu as toujours le sourire quand je te vois. Tu m'avais dit il y a quelques temps de ça qu'il y avait... en fait, tu avais un gène, c'est ça qui était un gène de l'optimisme. Il existe vraiment ce gène ?
C'est ce que m'a dit le docteur qui a regardé mon génome. Il m'a dit effectivement que j'avais ce que les médecins appellent le gène de l'optimiste. C'est que j'ai une mutation sur un récepteur de mon cerveau qui fait que j'aurais du mal à être dépressif.
C'est quand même c'est un sacré avantage, ça.
Fantastique.
Avant qu'on parle de Moderna, je voulais revenir à tes origines. Grande carrière aux États-Unis, on y reviendra, mais n'oublions jamais d'où nous venons. Donc mm-hmm. Toi, tu viens du Sud-Est, ouais. Puisque tu es né et tu as grandi à Marseille. Ton papa est ingénieur, ouais. Ta maman était dans la médecine du travail. L'enfance du petit Bancel là-bas, comment tu la décrirais aujourd'hui ?
Ouais, elle était très heureuse, on a eu de la chance. On n'a jamais manqué de rien, on n'était pas riches, mais on n'a jamais manqué de rien. Bon, on avait des fois quelques fins de mois un peu compliquées, mais bon... Ça arrive à beaucoup de gens. L'avantage de grandir à Marseille, c'est que la qualité de vie était extraordinaire, quoi. Hein. J'ai réalisé bien plus tard, parce que comme toujours, quand c'est normal pour toi, ouais. Parce que tu connais que ça.
C'est normal.
C'est normal. Mais quand tu réalises d'être sur la mer, de manger des plats extraordinaires, des produits frais toute la journée, et puis de pouvoir aller dans les Alpes à 2 heures de voiture, même si c'est une petite station de coin chez des amis, tu vois. Crécher chez des amis pour skier quand t'es au lycée, c'est le paradis, quoi. J'ai la chance aussi, un des aspects de ma vie, c'est de grandir avec les jésuites, quoi. Et j'ai réalisé pareil que plus tard, quoi, parce que c'était normal, quoi. T'allais faire des trucs sociaux et tout avec les copains de ta classe, mais ça faisait partie
de... qu'on te posait pas la question, tu veux le faire.
Pour ouais, toi, c'était ça, tu le faisais. Allez, on va tous faire ça, ok, ben, pas de problème, tu partais avec l'aumônier.
Ça t'a beaucoup marqué, ça ?
Ben, ça m'a beaucoup marqué dans le sens de servir, quoi. On y reviendra, je pense, quand tu voudras parler ou de Moderna ou de ce qu'on fait au niveau philanthropique. C'est que c'est un grand fil rouge, je pense, de ma vie. Puis j'ai une chance de trouver une femme qui est exactement dans cette même...
C'est peut-être pour ça que c'est devenu ta femme, d'ailleurs.
Ouais, exactement, ouais.
Enfin, un petit jeu rapide. Est-ce que tu peux répéter après moi mRNA 1237 ?
mRNA 1237.
Tu sais pourquoi je te pose la question ?
Parce que je suis dyslexique.
Est-ce que tu l'es vraiment, tu penses ?
Alors, j'avais été diagnostiqué par un médecin. Alors, on a fait diagnostiquer notre grande fille quand elle avait, je passe 6-7 ans, parce qu'elle avait du mal à lire, etc. Et donc, j'étais avec elle, parce qu'elle était petite à l'époque, avec le médecin spécialiste.
Et toi, tu faisais le test en même temps ?
À la fin, je dis au médecin, je pense que j'ai la même chose, quoi. Il me dit, ouais, il y a des gènes qui influencent ça. Donc, effectivement, j'ai énormément de mal à retenir C'est vrai que j'étais très mauvais étant gamin en histoire ou tout comme ça. Et retenir des dates, c'était impossible.
Et donc, tu changeais les...
J'intervenais les chiffres. Dans la médecine, tous les médicaments, avant d'être approuvés, ont un numéro, avant d'avoir en fait une marque de médicaments. Et donc, effectivement, le vaccin Covid, c'était l'ARN messager, donc mRNA en anglais, 1273. Et chaque fois, il me faut des semaines... Chaque fois, les mecs, ils disent, mais attends, c'est quoi ce truc? Alors, maintenant, ils savent que je suis dyslexique.
Il n'est pas sérieux. Il ne peut pas diriger cette entreprise. Il ne peut pas s'en souvenir.
Exactement.
Mais je t'en parle aussi parce que c'est vrai que, de nouveau, je le sais, nous reçons des messages. Il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui sont 10, donc dyslexiques, dyspraxiques. Il y a beaucoup de gens de 10. Ouais. Pendant des années, en particulier quand tu étais à l'école. Ouais. Je m'en souviens parce qu'ici, il y a quelques temps de ça, on a une copine qui s'appelle Alexia de la Rouge-Joubert, qui est une des plus grandes productrices de télé ici en France, et qui me disait que ça avait été très dur avec elle pour aller à l'école, parce que pendant des années, les gens pensaient que c'était plutôt de la bêtise, et que c'est un peu comme toi qu'on dise, t'es pas sérieux Stéphane, t'as fait toutes ces études, tu n'es pas... Toi, tu l'as vécu comme ça?
J'en ai beaucoup souffert, parce que j'ai une période, si tu veux, donc le collège, toi en quatrième, troisième, ou dans certaines classes, j'étais dernier de la classe. Alors, en histoire, en biologie.
En biologie. C'est-à-dire que là, tu vas faire plaisir des gens, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent, mes enfants sont passés bon. Il a quand même fait Centrale et Harvard après. Donc, on a toujours de l'espoir.
Et ce qui m'a en fait sauvé, c'est les maths, quoi, et la physique, quoi. C'est en fait comprendre. C'est-à-dire que quand je comprends quelque chose, je sais imprimer dans mon cerveau à jamais, quoi. Il y a même des, tu vois, parce que j'ai réussi à développer, alors je sais pas si c'est naturel ou c'est une compensation pour la dyslexie, c'est une énorme mémoire visuelle. Donc, je peux te réécrire encore des formules de maths que je ne comprends même plus aujourd'hui, de classe même
pas.
Mais je les ai photographiées dans la tête et des formules qui prennent la page dans l'autre sens. Quoi, hein. Et donc, je pense que tu, avec le temps, crées des outils. Mais effectivement, comme tu dis, c'est pour ça que nous, quand notre fille avait du mal à lire, tout de suite, boum, diagnostic, c'est que les enfants en souffrent parce que je pense qu'il n'y a personne qui apprécie être pas bon. Ouais. C'est pas la nature humaine, quoi. Et puis, tu sais, par rapport à tes copains, copines en classe, parce que quand les profs te rendent les notes, et des fois, c'est pour ça, les derniers, c'est pas top, quoi. Et puis, les parents, quoi. Imagine, ma mère est médecin, quoi. Et quand tu ramenais les notes que j'avais des fois en biologie ou en histoire et tout,
Heureusement, papa, l'ingénieur, disait, mais oui, mais ça va quand même. Il a des bonnes notes en maths et en physique.
Il m'a aidé beaucoup en maths, quoi. C'est-à-dire que...
Il a passé du temps. C'est beaucoup de temps.
Il a passé beaucoup de temps. Parce que je pense aussi que j'ai une période au collège où en fait, comme je n'étais pas bon dans certaines matières à cause, je pense, de la mémoire, j'avais un peu décroché sur d'autres trucs, y compris les maths. En plus, je programmais tout le temps. Donc, c'est aussi ces années où tu te cherches, etc. Ouais. Et tu fais plus ce qui te fait plaisir. Et donc, si tu veux, il m'a pas mal aidé en seconde à me remettre aux maths sérieusement. Donc, j'ai eu sans doute au moins 3 mois avec mon père où peut-être on faisait des maths tous les soirs.
Mais merci papa. Hein.
Ouais, exactement. Et après, bon, c'est reparti.
Alors, les maths, donc, ça a bien fonctionné. Classe préparatoire, tu vas à Versailles, chez les GES, comme tu l'appelles, donc les jésuites. Tu intègres donc la prestigieuse École Centrale de Paris. Et tu dis, déjà à l'époque, tu t'intéressais à la génétique, tu lisais le Wall Street Journal. Là, on est quand même, tu vois, je connais pas énormément de jeunes qui rentrent ingénieurs, qui codent et qui en même temps lisent le Wall Street Journal. À ce moment-là, t'es tout jeune, t'as 18 ans, tu te vois faire quoi?
Alors, c'est rigolo parce que très jeune, et je pense que c'est même avant d'être en école d'ingénieur, mon rêve, c'était un jour de diriger une boîte de technologie. Et la tâche, je m'en foutais. Hein.
C'était laquelle? T'en avais une en tête?
Alors, c'était la génération, en plus l'Apple 2C, etc. Ouais. Je veux dire, t'avais Steve Jobs et puis c'était les boîtes en Californie qui étaient, on a le même âge, hein, qui étaient assez, si tu veux, le rêve, c'est pour les petits Français et tout à Marseille, c'est le rêve. Et alors, c'est intéressant, c'est-à-dire que c'est vraiment la
Thomson, ça n'allait pas. Tu voulais pas faire Thomson?
Non, pas Thomson, non. Donc, vraiment la technologie au sens large du terme technologie, hein. Et comme tu dis, quand je suis à Centrale via la génétique, je suis retourné à la biologie alors que j'avais eu des grosses souffrances quand j'étais plus jeune en classe de biologie, etc.
Mais c'est ça qui est fou.
Et si tu veux, la taille m'était totalement inimportante. Mais si tu veux, mon but, c'est pour être, je voulais une fois dans ma carrière être patron d'une boîte et si ça avait été 10 personnes, j'aurais été hyper heureux. Donc, ça n'a jamais été sur la taille et tout.
Tu sais, tech, être patron.
Voilà.
Mais parce que déjà à l'époque, c'était quoi? C'était l'autorité?
C'était l'intégration. Je pense que j'ai eu la chance de comprendre tôt, c'est qu'une boîte, c'est un système. un produit, sur le vaccin qu'on fait, il y a plus d'une centaine de décisions sur le design de chaque produit. Mais si tu optimises qu'un bout et que tu oublies tout le reste, tu fais un truc qui ne marche pas bien ou qui ne marche pas. Et donc, pour moi, une boîte, c'est un système. Et ce que j'adore, pour moi, l'aspect hyper fun d'être directeur général d'une boîte, c'est qu'une boîte, c'est un système très complexe entre tes clients, tes fournisseurs, tes employés, les départements, la science, etc., qui est en permanence, tu essaies toujours de la remettre en équation et qui en permanence est redéséquilibrée. Et pour moi, le fun intellectuel d'une boîte, c'est de toujours voir est-ce qu'elle est en train de se déséquilibrer et la rééquilibrer en permanence, quoi.
Stéphane, je te propose maintenant une pause amicale. J'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question surprise.
Quelles compétences recommanderiez-vous de développer en priorité chez les élèves ingénieurs pour maximiser leur impact et répondre aux défis qui nous font face?
Question de Romain Soubéran, qui est le directeur donc, de Centrale Supélec, parce que depuis que tu es parti, ils ont donc fusionné avec l'école Supélec.
Je pense que c'est comment développer la capacité des gens à collaborer. Parce que à la fin, tous les gros problèmes nécessitent beaucoup de métiers différents à venir ensemble et à résoudre ensemble ces problèmes. Et je pense que on a tendance des fois à insister beaucoup sur l'aspect technique, analytique de la formation. Mais souvent, tu as des gens qui sont formés au métier d'ingénieur qui en fait oublient les sciences, je dirais, soft, de comment est-ce qu'on collabore, comment est-ce qu'on pose des questions, comment on intègre des gens qui ont des styles différents, des éducations très différentes.
Et tu as vu ça, une différence entre l'école d'ingénieur en France et ce que tu as vu aux États-Unis dans les écoles ou les écoles où sont tes filles aujourd'hui? Est-ce que tu penses que c'est soft skills, parce qu'on parle de ça, hein,
ouais.
Est-ce que tu penses que c'est moins présent ici, que ça devrait être plus développé? Est-ce qu'il n'y a pas de valeur? On ne donne pas beaucoup de valeur en France dans les soft skills. Par exemple, la présentation, je pense que tu n'as jamais eu aucun cours de présentation avant d'arriver à Harvard.
Non, effectivement. Alors, la présentation, c'est un aspect important, mais je ne pense pas que c'est l'aspect soft skill dans le sens travail en collaboration en équipe, mais c'est important. Effectivement, moi, je me souviens, mes filles étaient au collège aux États-Unis, elles présentaient devant la classe régulièrement, quoi. Elles passaient le week-end à préparer la présentation, à stresser, à faire leur petite carte avec les points essentiels qu'elles voulaient dire, à le présenter, à s'entraîner.
Alors qu'elles avaient 13 ans, 14 ans.
Exactement, elles s'entraînaient à la maison et elles savaient la pétoche de passer dans toute la classe et les professeurs le lundi matin, quoi. Mais je pense au niveau collaboration, moi je l'ai vu, si tu veux, à plus Harvard Business School. Alors c'est vrai que c'est dans le monde plus business que ingénieur, mais c'est te faire réaliser via donc les fameux cas d'Harvard Business School, que on est tellement tous biaisés par notre formation, notre milieu professionnel, notre milieu familial, etc., qu'on voit tous un même problème de manière très différente. Mais comme on vit que dans notre peau et dans notre cerveau, on pense que c'est la seule manière de voir ou de résoudre un problème, quoi. Et j'avoue que la force de la diversité des parcours des gens, des manières de penser a été vraiment renforcée énormément à Harvard, où tu vois, des fois j'ai un cas sur la boîte XYZ, tu bosses dessus 2 heures le soir, tu te crois que tu as trouvé la bonne solution, c'était super le truc et tout, et là maintenant tu es en classe et tu as un médecin qui fait des commentaires où tu n'as même pas réfléchi. Après tu as un avocat qui pareil sur la même boîte, la même situation, de tels problèmes à régler business, on regarde une autre dimension où tu n'as même pas réfléchi. Et au bout de 90 minutes, tu dis, merde, j'ai même pas pensé à tous ces points, quoi. C'est pas que tu n'as même pas d'opinion, c'est pas que
tu n'as même pas pensé.
Et ça m'a beaucoup formé dans le futur pour la construction de mes équipes, que ce soit à Lilly, à bioMérieux ou à Moderna, de toujours m'entourer de gens très différents de moi pour s'occuper de mes blind spots, quoi.
On se retrouve après Centrale. Tu étais assez fan du Japon, tu pars là-bas, tu fais ton stage de fin d'études, hein,
ouais.
Et là tu rentres dans ce groupe bioMérieux, qui est un géant du diagnostic infectieux, propose un poste, et là c'était une épidémie, là tu arrives dans un moment dur pour beaucoup de personnes, parce que c'était la bactérie qui ravage le tube digestif, le E. coli ou le I. coli, je ne sais pas comment.
Échec coli, on dit en français, le E. coli au 157.
Oui, encore un chiffre. Ouais, tu en souviens celui-là?
Oui, mais celui-ci, je l'ai beaucoup vu.
Donc là, c'est en particulier pour les jeunes, parce que c'était les écoliers.
Les enfants très jeunes, moins de 5 ans. C'est en fait une infection alimentaire. On était à l'époque, Biomérieux, la seule société qui avait une machine pour diagnostiquer donc beaucoup d'échantillons d'agroalimentaire par rapport aux autres sociétés qui avaient des technologies manuelles. Et donc, on essayait de trouver l'épingle dans la meule de foin, d'où ça vient. Donc, tu avais plein d'enfants dans la région d'Osaka qui étaient malades, hospitalisés, certains mouraient. Tu as des enfants de 3-5 ans qui mouraient. Hein. Et on était là, à la course contre le temps, essayer de trouver d'où ça vient, quoi. Et comme on avait donc la seule machine qui existait à l'époque, ça a été un mois de folie, quoi. On travaillait, ben, comme on a fait à Moderna, 7 jours sur 7. Chaque heure que tu perdais, tu pouvais avoir un enfant qui allait mourir, quoi. Des parents qui n'allaient plus avoir d'enfants, tu vois, des frères et sœurs qui n'allaient plus avoir leurs frères ou sœurs, je veux dire, des trucs terribles, quoi. Je me sentais une responsabilité énorme de comment est-ce qu'on fait vraiment, pas un bon job, mais le meilleur job qu'on puisse faire à chaque heure. Et tu vois, il y a pensé à tous les détails et les implications, voir à travers les tournants ce qui va se passer dans 4-5 jours, dans une semaine.
À ce moment-là, qu'est-ce qui te fait passer de ce que tu fais, que tu aimes faire, c'est d'avoir cette mission de changer et sauver des trajectoires de vie, là, très clairement, de sauver des vies. Et là, tu dis, je vais faire un MBA. Qui t'en parle en premier de ce MBA?
J'ai beaucoup été aidé par mon oncle. Un de mes mentors, c'est mon oncle, donc le frère de ma maman, qui est parti aux États-Unis en 82, je crois. Et dans le software et qui et comme moi je voulais, je t'ai dit, je me voyais toujours, tu sais, un jour faire du business et donc je m'étais dit donc je lui avais parlé, il me dit ouais, va d'abord faire une école d'ingénieur pour apprendre de la science, un vrai métier, etc. et tu peux faire du business plus tard, faire l'inverse, ça, c'est pas vraiment faisable. Et donc ce que j'avais fait, et puis effectivement étant européen, toi, ayant bossé donc 3 ans au Japon, j'ai en fait postulé qu'à des MBA américains. Je ne sais pas pour un MBA européen, même s'il y a des très bons MBA, bien sûr, en Europe, hein, me disant la vraie valeur, c'est non seulement ce que je vais apprendre à l'école, le diplôme que je vais avoir, mais ce que je vais comprendre tous les jours d'être aux US, quoi, de vivre aux US.
Que la culture.
Ah, exactement. Et donc, j'ai déposé mon dossier à 4 universités américaines, j'étais prise dans 3.
Comment tu as financé?
Alors, j'ai eu beaucoup de chance parce qu'Alain Mérieux est un immense gentleman.
Exceptionnel.
Et quand j'ai dit à Alain Mérieux que j'avais été pris à Harvard et que j'allais malheureusement quitter Biomérieux, une société pour laquelle j'ai beaucoup d'affection. Hein. T'imagines, cette expérience dont on vient de parler est beaucoup marquée. Alain a été un grand gentleman comme il est toujours. Il a dit, bon, on prendra ça en charge. Et donc, à la fin du MBA, je rencontre Brenda, qui devient mon épouse pendant le MBA. Et jamais, je ne peux pas rentrer à Lyon. Et je lui explique pourquoi. Je lui dis, je pense que c'est vraiment la bonne. Et il me dit, très à l'américain, quand il me dit, Stéphane, la famille, c'est la priorité la plus importante. Et ben, je comprends. Et je lui dis, donc, je vais rembourser. Et il me dit, non. Je lui dis, non, je lui dis, excusez-moi. Il me dit, non, vous inquiétez pas.
C'est la classe. Hein.
Ah ouais, la classe.
C'est la classe.
À l'américain, c'est la classe.
Je te propose, Stéphane, une pause. Mais ce n'est pas qu'une pause amicale, c'est une pause familiale. On parlait tout à l'heure, tu parlais de la rencontre avec ton épouse, Brenda. On va écouter une question de Brenda.
You graduated business school in the year 2000 when the dot-com went off and you got lots of different jobs. Why did you pick making medicine?
Tu as ton diplôme en 2000, on est en plein dans le boom, premier boom d'Internet. Tu sors d'Harvard, tu peux tout faire. Mm-hmm. C'est quoi les deux connexions dans ton cerveau qui disent c'est médecine?
Plusieurs choses. La première, c'est donc
merci Brenda déjà.
Ouais. Hein? Et alors Brenda, alors elle l'a pas dit dans la question, mais Brenda dit souvent quand elle décrit notre rencontre, décrit souvent que c'est sans doute un des moments qui était important dans sa décision, que sans doute c'était le bon gars, quoi. Parce qu'effectivement, donc
c'est elle qui t'a choisi. Hein. Il faut résumer. C'est elle qui t'a choisi.
Si tu veux, effectivement, cette période d'Harvard, c'était une folie. Tu trouvais des jobs n'importe où, avec des salaires de fou, et que ce soit du consulting, de la banque, et puis plein de jobs internet. Il y a même des collègues de promo qui n'ont pas fini leur école et qui ont rejoint des boîtes pendant que nous, on était assis sur les bancs d'étudiants, et qui, d'ici que nous, on ait notre diplôme, aient eu leur boîte vendue. Et ils sortaient avec 4, 5, 10 millions de dollars, alors que nous, on n'avait même pas diplômé encore.
Il fallait rembourser vos
emprunts. Exactement. Et donc, je vais un peu revenir à mes bases, quoi. C'est-à-dire que j'ai un petit peu papillonné à faire des entretiens avec toutes ces boîtes-là. Et puis, c'est revenu sur le fait que Vraiment, ce qui me plaisait, c'est cette expérience que j'avais à bioMérieux dans la santé, d'utiliser sur mon temps sur cette planète pour aider les autres. Donc, tu vois, ça a aussi sa spégèse, etc., tout dedans. Et puis, j'aime bien être contrarié, moi. J'aime bien faire des trucs différents, tu vois. Après avoir fait Central, toi, je suis allé faire du commercial en Asie avec bioMérieux. Après faire le MBA, je suis allé faire la production à Lilly. Donc, effectivement, j'ai fini par retourner en médecine parce que je voulais aider les autres.
Donc là, tu as 29 ans. Tu rentres donc ce grand groupe pharmaceutique qui s'appelle Lilly. Tu es responsable donc, d'un stratégie de production et des chaînes d'approvisionnement. Donc là, on est à nouveau dans le dur. Donc, je te retrouve à Indianapolis. Tu lances tout un tas de... Enfin, tu règles des problèmes industriels, essentiellement. Tu fais parler de toi. Tu réussis dans ce que tu fais. Et là, tu vas te retrouver quelques années après à être invité à déjeuner par Alain Mérieux. Là, on est en 2006. Et là, il a entendu parler de toi. Tu étais rentré dans le groupe Mérieux, après Lilly. Et là, qu'est-ce qui se passe, là ?
Alain me contacte et il me dit, je passe à Bruxelles. Donc, à l'époque, j'étais patron de la filiale de Lilly à Bruxelles. Et j'aimerais vous voir. Je vais bien sûr, donc ça fait plaisir. Donc, on déjeune ensemble.
Là, tu t'es dit, mince, j'ai besoin... il a besoin un peu d'argent, il faut que je lui rembourse.
Non. Et il me dit, je viens pour voir de la famille et tout. Donc, je dis, OK. Et puis, je suis tout content de le revoir. Et donc, très Alain, c'est-à-dire que on parle de tout, de la santé, de l'économie, de la géopolitique, de la Chine, etc. Donc très Alain, on fait le tour du monde et tour de tous les sujets à peu près pendant le déjeuner. Et puis littéralement, entre le fromage et le dessert, il me dit, ah, au fait, on est en train de réfléchir avec donc Christophe et Alexandre, ses fils, qu'on voudrait un nouveau patron à bioMérieux, qui soit la génération des enfants et qui s'entendent bien avec les enfants pour la prochaine phase de bioMérieux. Et donc, on a pensé, on est en train de discuter avec le candidat. On m'a conseillé de voir large et donc, j'ai proposé votre nom. Et donc, je veux savoir si, premièrement, est-ce que vous êtes intéressé. Mais en fait, il me dit, je ne sais plus exactement la formule parce que c'est il y a longtemps, mais il me dit un truc du style, mais vous ne faites pas trop d'illusions, vous êtes quand même très jeune. Quoi. Bon, à l'époque, j'avais 33 ans, quoi. Hein.
T'étais très jeune.
Ouais. Alors, je lui dis, premièrement, je suis ravi et touché. Et je lui dis, moi, mère, le plan, c'est que je parte au Japon pour Lilly, pour diriger la filiale Lilly. Je n'ai jamais regardé hors de Lilly, bien que j'ai eu plein d'appels de chasseurs de têtes, qu'ils ont été super avec moi à tous les niveaux. C'est une boîte que j'aime beaucoup. Mais bon, si c'est pour la direction générale de bioMérieux, qui est une boîte que j'adore, on peut discuter. Puis c'est là que tu connectes avec son étoileur, que ça avait toujours été mon rêve un jour de gérer une boîte de tech, hein, de technologie. Ouais. Pour moi, bioMérieux, c'était une boîte de technologie comme les Moderna. Et donc, on fait les entretiens au bout de quelques mois. Et puis un jour, j'ai le coup de téléphone qu'il m'offre le poste.
J'ai lu qu'à cette époque, parce que là, c'est vrai que tu es chez Lilly, et là, tu te retrouves dans un monde différent, un monde de la biologie, où les projets, pour la première fois devant toi, ne sont pas des projets de production où globalement, tu mets et tu reçois. Ouais. Là, tu te dis, la durée est longue. Mmh. Et Alain te prévient de ça. Et en fait, il présente, mais on sent qu'il y a un modèle de monde qui, Alain, qui a l'habitude de ce temps long, et toi qui es sur le temps court. Cette impatience qu'on voit quand tu vas dire aux yeux du monde, quand le monde s'est arrêté, vous savez quoi, moi je vais y arriver, et ça va être plus vite que ce que vous pensez, pendant la Covid, ça vient d'où ça, tu l'as toujours eu ce côté impatient, ce côté.
Ouais, j'ai toujours.
Toujours.
Eu. Toujours.
Et tu as réussi à comprendre d'où.
Monsieur, c'est qu'il y a un aspect intéressant de la manière dont mon cerveau fonctionne, c'est que normalement le cerveau pense linéairement. Ma tête fait des allers-retours à 5, 10, 20 ans en permanence. Quoi. C'est un muscle naturel de mon cerveau. Et donc, si on perd une heure aujourd'hui, ce n'est pas l'heure d'aujourd'hui qui m'emmerde, c'est l'heure dans 3 ans pour tel produit qui ne va pas être lancé. Et que tu accumules ça dans tous les processus pendant 3 ans, c'est en fait, on est en train d'avoir des gens qui vont mourir à cause de nous. Quoi. Et c'est ça, si tu veux, qui est...
Ouais, mais j'entends, et c'est vrai que la mission est plus que noble, mais ça doit t'épuiser.
C'est lourd à porter, ouais.
Une nouvelle pause amicale. Quelqu'un qui a un message à te faire passer, on écoute.
Mon cher Stéphane, j'ai suivi votre magnifique réussite aux États-Unis. Elle me réjouit. Maintenant, il faut revenir en France et qu'on fasse ensemble de belles choses pour les pays en voie de développement. Merci. À plus.
Alain, ils sont à plus. Tu vois, il ne vient pas te voir à Boston, hein, ouais. Il le fait à travers pause.
Je ne sais pas. Hein. par contre, je pense que le message d'Alain, c'est sur les pays émergents en termes de médecine. Alors, on en parle régulièrement. On a 2-3 projets intéressants. On a monté en fait une application de Moderna qui n'est pas très connue parce qu'on fait encore un pilot tranquille. Bon, il y a peut-être, je ne sais pas, 20 ou 30 universités qui sont dessus aujourd'hui. Donc, on a créé un App Store de Moderna où, en fait, des scientifiques, aussi bien à Oxford qu'à l'Institut Pasteur à Paris ou l'Institut Pasteur à Tunis, sur laquelle d'ailleurs m'avait mis en contact avec eux pour faire un nouveau vaccin.
C'est une plateforme, donc tu dis de...
Ouais, en fait, tu peux, si tu es scientifique, hein, donc c'est un expert en infectieux à Pasteur ou au Japon, n'importe où, si on te donne accès à la plateforme sur Internet, et ce qu'on fait une fois que l'université a signé un accord cadre avec Moderna, n'importe quel chercheur de cette université, donc à un mot de passe, etc., se connecte, et tu peux designer un vaccin sur Internet, Moderna, avec toute la technologie Moderna, le même vaccin que Covid, hein. Donc vraiment le best-in-class technologie qu'on a. Et tu peux faire ça, si tu connais bien le virus sur lequel tu veux faire un vaccin, tu peux faire ça en 10 minutes, tu appuies sur « commander », ça part électroniquement à Moderna, à notre usine à Boston, on fait ton vaccin ou tes vaccins que tu as designés, c'est à différentes hypothèses scientifiques, et 4-5 semaines après, on t'envoie un FedEx avec tes vaccins dans des flacons qui arrivent dans ton labo et que tu vas tester toi-même sur tes modèles animaux, dans tes... boîte de pétri de cellules humaines, etc., pour valider ton produit.
Modèle économique ?
Alors, le modèle économique, sur les pays en voie de développement, c'est de trouver des financements de style Fondation Gates. Donc, par exemple, on a aujourd'hui un vaccin contre le VIH qui est financé par la Gates en termes de coût d'essai clinique. Sur l'économie, donc cette plateforme dispo dont je viens de parler, qui s'appelle Moderna Access. Donc, c'est le nom de l'App Store. Et ce qu'on s'est engagé avec la Gates, c'est donc eux, ils financent les essais cliniques. Et dans les pays émergents, on vend le produit à coût de fabrication. Et dans les pays riches, donc les droits sont à nous. Et on facture ça au prix de la valeur du produit, comme les produits normaux. Tous mes amis me disent que t'es complètement fou. T'es un super Java biomérieux. Donc on en parle l'autre fois avec Brenda. Et pour ma femme, en fait, tu dois faire ça. Et je dis, tu réalises qu'il y a 5% de chance de succès, quoi. Et elle me dit, eh bien, c'est pas grave, il faut quand même que tu essayes. Et je lui dis, pourquoi ? Et elle me dit, parce que t'es tellement têtu que si cette technologie a une chance de marcher, t'es sans doute une des rares personnes qui va pouvoir le faire. Parce que tu vas essayer de passer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée. Du moment où c'est éthique et légal, tu vas essayer tout ce qui est possible avant de mourir.
Comme on parle beaucoup de Moderna, on a beaucoup entendu parler de ce ARN, donc en fait, ce que tu appelles le messager. Est-ce que tu peux... expliquer ce que tu as développé, quelle est l'unicité, ce que tu as pu faire, de manière assez simple. Tu nous expliques ça ?
Ouais. Donc, l'industrie pharma, depuis à peu près 150 ans, fait ce qu'on appelle des molécules analogues, où chaque molécule, l'aspirine, le Viagra, le Lipitor, prend la molécule que tu préfères, sont des produits qui sont uniques au niveau chimique, qui donc prennent un temps fou à développer dans les laboratoires, dans les animaux, qui ensuite... La plupart d'entre eux échouent en essai clinique, comme la plupart des gens ont lu, plus de 90% des produits qui démarrent en essai clinique échouent, ne sont jamais approuvés. Et il faut tout reprendre chaque fois, et pour les produits qui marchent, il faut que tu construises une usine dédiée à ce produit. Donc c'est un truc de fou, quoi.
Un budget considérable.
Voilà. Arrive l'ARN messager. Donc l'ARN messager, c'est une molécule d'information qu'on a tous dans toutes nos cellules, qui est la molécule de la vie. Il y a l'ARN messager dans les plantes, dans les poissons, dans les êtres humains, il n'y a pas de vie qui existe sur la Terre qu'on connaît qui n'a pas d'ARN messager.
C'est quoi la différence entre l'ADN et l'ARN ?
Ouais, alors c'est une bonne question. Alors, je prends une analogie là. L'évolution a fait un truc extraordinaire entre d'avoir ces deux molécules, l'ADN et l'ARN. Donc l'analogie que je vais prendre, c'est le livre de toutes les recettes préférées que ta grand-mère t'a laissées. Toutes les trucs qu'elle faisait quand tu étais gamin... Elle t'a mis tout écrit dans un livre. Et le livre, c'est ton ADN. Donc, tu as plein de recettes. Comment faire l'insuline, comment faire l'hormone de croissance, etc. Chaque page, c'est la recette d'une protéine différente. C'est ton ADN, c'est ton livre. Mais pour ne pas abîmer le livre, quand tu vas dans la cuisine faire la recette de la mousse au chocolat où tu mets de la farine et des œufs, etc., la vie a fait un truc super bon. C'est qu'il a fait une photocopie de la page uniquement de la mousse au chocolat. C'est l'ARN messager. Donc, en fait, quand ton corps fait de l'insuline dans ton pancréas, si tu n'as pas un diabète de type 1, l'instruction de la molécule ou la protéine d'insuline est dans ton ADN, dans ton livre de recettes, mais pour ne pas faire cette protéine à partir de l'ADN et de prendre le risque d'abîmer l'ADN, la vie fait une copie uniquement de l'instruction de tout le livre où tu as toutes tes protéines de ton corps, de la molécule, de l'insuline, dans un ARN messager de l'insuline. Donc, c'est en fait une photocopie de la page de la recette de mousse au chocolat. Et une fois que tu as fait la mousse au chocolat, tu mets la recette à la poubelle, la photocopie à la poubelle. Tu as laissé pendant tout ce temps le livre dans ta bibliothèque pour ne pas l'abîmer. Et c'est pour ça que c'est hyper important, parce qu'en fait, on sait aujourd'hui que les cancers, c'est toujours une maladie de la molécule d'ADN. Toujours. Quel que soit l'organe. Donc, tu vois pourquoi l'évolution a voulu protéger comme un petit peu une molécule hyper importante, ta molécule d'ADN, et donc créer cette photocopie. Et c'est ça l'ARN messager. Et donc, quand on a eu, si tu veux, les fondateurs de Moderna qui m'ont contacté, donc de Harvard et MIT, au démarrage de la boîte, hein, et ils m'ont dit, tiens, on va monter une boîte qui fait des médicaments à partir d'ARN messager. Je leur ai dit, bon, vous êtes fous, c'est un truc qui ne marchera jamais. Mais après, l'idée qui m'a beaucoup séduit, la raison pour laquelle j'ai démissionné de Biomérieux, c'est que je me suis dit, si on arrive à faire une molécule, on va créer une plateforme. Parce qu'en fait, les quatre molécules qui code chaque molécule d'ARN messager dans ton corps, dans le mien, dans celui d'une souris, etc. C'est les mêmes molécules et c'est toujours les mêmes.
Donc là, on est en 2011.
En 2011.
T'es chez Mérieux. Tu as ces personnes qui ont une idée, mm-hmm. qui ont testé quelque chose sur une souris à ce moment, mm-hmm. Qui t'en parlent et t'hésites longuement avant de prendre ces décisions. Et donc là, on revient sur la personne qui partage ta vie, ton épouse, Brenda. Donc c'est vraiment à ce moment-là que ce choix, il se fait à ce moment-là. Tu lui poses la question, qu'est-ce qu'elle te dit à ce moment-là?
Alors, elle me dit plusieurs choses. Alors, on en parle déjà depuis une semaine ou deux. Je parle aussi à beaucoup de gens scientifiques, quelques prix Nobel de médecine. C'est à Boston, il y en a pas mal, donc ça aide. Pour dire, est-ce que c'est vraiment un truc de fou ou pas? Alors, il faut savoir que tous mes amis me disent, t'es fou.
Et tous mes amis, il n'y a pas un seul.
Il n'y a pas un seul qui me dit vas-y quoi. Tous mes amis me disent t'es complètement fou. T'as un super job à Biomérieux. Donc on en parle l'autre fois avec Brenda. Et puis toutes les grosses décisions qu'on a prises familialement, on les a toujours prises à dîner dans un resto. Alors on va dans un petit bar à vin italien tranquille près de chez nous. On laisse les enfants qui sont petits avec une babysitter. Et on passe une soirée autour d'une bonne bouteille de vin à discuter. Et puis si tu veux, ce qui a vraiment beaucoup attirer Brenda dans le projet, c'est le fait qu'on pourrait faire des médicaments pour lesquels aujourd'hui il n'y a aucun espoir. Et l'exemple que je prenais pour elle, parce que Brenda c'est une photographe, donc c'est une créative, c'est pas une scientifique, donc il fallait que j'explique la mousse au chocolat à ma créative, est-ce que c'était la reine, etc. Et bon, Brenda est adoptée et comme toute femme en plus adoptée, hypersensible aux enfants, etc. Et l'aspect de la technologie qui l'a beaucoup touchée, c'est les maladies génétiques rares sur lesquelles, pour beaucoup d'entre elles, il n'y a aucun espoir pour les enfants et leurs parents. Et une applicative de Moderna qui était évidente au démarrage, c'est de donner l'instruction de l'ARN messager correct que toi et moi on a dans notre ADN, que ces enfants n'ont pas, leur donner cette instruction via une molécule d'ARN messager qu'on ferait nous dans notre usine pour qu'ils aient la bonne instruction pour faire la bonne protéine dans leur corps. Et donc,
quand tu lui expliques ça à table, elle te dit « Mais pourquoi tu y penses? Voilà. C'est fou, tu démissionnes. »
Voilà, donc ma femme elle dit, en fait, elle me dit, elle m'a surpris, elle me dit « En fait, c'est pas qu'est-ce qu'il faut que tu fasses, tu dois faire ça. »
T'as plus le choix là.
J'étais folle ou quoi? Je lui dis « Tu réalises qu'il y a 5% de chances de succès, quoi. » Et toi, elle me fait une petite pause, elle dit « Bon, je suis pas très bon en maths, mais donc ça veut dire 95% de chances d'échec. » Je dis « Ouais. » Et elle me dit « Eh bien, c'est pas grave, il faut quand même que tu essayes. » Et je lui dis « Pourquoi? » Et elle me dit, parce que t'es tellement têtu que si cette technologie a une chance de marcher, t'es sans doute une des rares personnes qui va pouvoir le faire. Parce que je vais essayer de passer par la porte, par la fenêtre, par la cheminée. Du moment où c'est éthique et légal, tu vas essayer tout ce qui est possible avant de mourir.
Sur les financements, normalement, un monde hyper régulé, le monde des biotech, mm-hmm. beaucoup plus régulé que quasiment tous, et ce qui est bien normal,
bien
puisque là tu touches à la santé de tout le monde. L'échec et la norme mm-hmm. dans ce marché-là. Et mm-hmm. en plus, l'échec, il n'est pas en deux mois, hein, parce mm-hmm. que l'échec, il est en quoi, 8 ans, 10 ans mm-hmm. C'est assez long.
C'est long.
Et souvent avec des montants qui sont considérables également, mm-hmm. parce qu'il faut tester et autres. Comment tu nous expliques un peu, comment toi, tu es allé convaincre les gens? Il te faut rapidement 50, 100 millions.
Ouais.
Tu fais comment pour convaincre les gens alors que tu as bah, t'as un beau CV, mais t'as, pas, ouais, alors, t'as rien, t'as pas de produit, t'as une idée, t'as une belle feuille blanche.
Ben, j'ai été toujours hyper honnête, comme j'essaie de toujours l'être avec les gens. Et donc, j'ai essayé de trouver des gens qui voulaient que leur argent ait de l'impact et assez d'argent pour être prêt à prendre des risques. Et j'ai toujours dit aux gens, de manière très honnête, ça sera ou zéro ou beaucoup. Et j'ai aucune idée de la probabilité des deux scénarios, aucune idée. C'est impossible de savoir, parce que c'est une technologie que personne n'a jamais travaillé au niveau clinique. Mais ça ne fait aucun sens scientifique si c'est qu'on n'est qu'un produit. Donc on aura zéro produit ou beaucoup de produits.
Qui est le premier qui t'a fait confiance?
Donc le premier tour de table, c'était donc Flagship, le capital risqueur. Moi, j'ai mis de l'argent perso. C'est que Banda a commencé à dire, non, il est vraiment fou, il met nos économies dans la société, en plus d'avoir pris une réduction de salaire de 80% par rapport à son salaire à Biomérieux.
Là, c'est comme poser des questions. Ouais, là, est-ce qu'il est sérieux? Là, tu lui as dit, mais c'est toi qui m'as poussé.
Exactement. Et bien, les premiers qu'on a mis, c'est en fait un groupe d'investisseurs privés en Suisse. Il y avait un ancien investisseur de Moderna, très sympa, qui...
Moi, j'en connais quelques-uns de ceux-là. Ouais. Hein, et je dois avouer... qui sont très heureux, ouais, quelques années après. Et le premier industriel que tu allais voir, parce que là, ils peuvent mettre 5, 10 millions, 15 millions, ce qui est beaucoup d'argent. Mais qui est le premier qui a vraiment...
C'est AstraZeneca qui a mis la première fois...
Donc, un concurrent, qui pourrait être vu pour les gens qui nous écoutent comme un concurrent.
Oui, mais alors pas dans le métier, ça. C'est-à-dire que ça fait maintenant sans doute 20 à 30 ans que... De plus en plus, la plupart des molécules lancées sont des molécules en fait, qui viennent de petites sociétés biotech. La pharma, dans les grosses sociétés pharma traditionnelles, je pense, l'essentiel d'entre elles ont perdu vraiment la capacité d'innovation, donc faire de la recherche. Hein. Ils sont très bons en essais cliniques, outils industriels, affaires réglementaires pour approuver les produits commerciaux, etc. Mais je veux dire, la niaque d'innovation, ils l'ont quand même tous à peu près perdu. D'ailleurs, souvent on dit le vaccin Pfizer, c'est le vaccin BioNTech, bien sûr, comme on sait, c'est la boîte allemande
qui
a cette technologie. Pfizer a fait ce qui a permis au vaccin d'arriver aux patients, c'est ils ont fait l'essai clinique, l'industrialisation, etc.
Ce qu'allait faire AstraZeneca avec toi quand tu as eu le premier 100 millions ou 200 millions.
Exactement, donc AstraZeneca, tu as vu cette nouvelle technologie. Bon, à l'époque, moderne, c'était 20 personnes, on avait des données dans 6 singes, donc c'est vraiment hyper le début, quoi. Mais la chance qu'on a eue, c'est que donc, AstraZeneca venait juste d'un nouveau patron qui s'appelle Pascal Soriot, qui est un des rares patrons de la pharma qui comprend la science super bien. Il y a plein de patrons de la pharma qui sont des gens du marketing, de la finance, des fois des avocats.
Ils sont perdus là, quoi.
Voilà. Alors que Pascal est très, très fort en science. Il a beaucoup d'imagination scientifique, hein, qui est bien sûr un compliment. C'est-à-dire qu'il est capable de voir ce que les choses peuvent être et peuvent devenir si elles marchent. Et Pascal a pris le pari. Bon, AstraZeneca, ils ont acheté une grosse option. Donc, ils ont acheté tout le cardiovasculaire, hein. Avec une exclusivité pour 5 ans, ils pouvaient faire ce qu'ils voulaient en ARN messager sur toutes les maladies cardiovasculaires. Ils ont acheté un bon bout d'oncologie contre 240 millions de dollars, qui était à l'époque le plus gros deal jamais fait de l'industrie de la biotech pour une boîte avec une technologie préclinique, hein, donc sans données dans l'homme.
Avec encore une fois 20 personnes et 6 singes.
Et 6 singes. 240 millions de dollars, c'est beaucoup par singe.
Waouh.
Et là,
tu t'es trouvé, parce que première fois où tu te retrouves en face avec quelqu'un à qui tu vas proposer une idée avec un contrat montant qui est assez fou. Raconte-nous cette discussion.
À un moment, je lui pose, tu as l'avantage d'avoir été dans les grandes boîtes comme Lilly Bumer, je sais comment les grandes boîtes fonctionnent.
Donc tu sais qu'il y a un moment, ils peuvent faire des chèques sans passer en haut.
Voilà. Et je lui dis à un moment, je dis, comment est-ce que Pascal peut signer? Donc il venait juste d'être nommé nouveau CEO. J'avais entendu parler de Pascal, mais je ne le connaissais pas. Et il dit 100 millions. Et je dis, bon, dans ce cas, il faut que je rencontre Pascal, parce que c'est lui qui va devoir aller justifier le deal au board.
C'est 240.
Parce que pour tout ce que vous voulez, ça ne peut pas être 100 millions.
On parle de ton début, là. Quand tu lances, c'est plutôt maladie rare. On parle, c'est comme ça que Brenda, au départ, te dit, fais-le, parce que c'est maladie rare. Comment ça s'est passé? Parce que ce n'est pas là où tu as été connu. Est-ce que toi aussi, là-dessus, tu as eu les échecs? Tu t'es rendu compte, tu as pivoté, tu t'es rendu compte que... est-ce que c'est parce que ça ne fonctionnait pas dans ces maladies rares?
Il y a deux choses qui sont passées qui sont intéressantes. C'est pour ça que l'agilité pour les entrepreneurs est fondamentale. Donc, on démarre bien sûr sur les maladies rares. Et il y a beaucoup plus de problèmes techniques, scientifiques qu'on avait anticipé avant. Parce que personne ne connaissait ce domaine technique. Hein. Personne n'a fait de l'ARN messager avant. Et donc, on fait des expériences. Il y a des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas, des trucs qui marchent, des trucs qui ne marchent pas. C'est deux pas en avant, un pas en arrière, deux pas en avant, un pas à droite, trois pas en arrière. Je veux dire, ça a été au début totalement non linéaire. Et donc... il y a plein de problèmes techniques qu'on avait au niveau des maladies rares, que bon, depuis, on a résolu. Hein, on a plusieurs maladies rares en essai clinique avec des super résultats où les enfants n'ont plus les effets de leur maladie, ce qui est assez génial, maintenant certains 2 ans sous traitement. Et un jour, justement, quand on a un des échecs techniques hein, dans des tests en animaux sur les maladies rares, Steven, qui est mon numéro 2, qui est le patron de l'R&D, qui est extraordinaire, il rentre dans mon bureau et il me dit tout de suite ce problème qu'on avait il y a 2-3 mois. Et je lui dis, ouais, parce que j'ai passé ça donc 2 semaines à ne pas dormir, je pensais qu'on allait faire faillite. Je m'en souviens bien, ouais. Il me dit, je lui dis, pourquoi? Il me dit, ben, si tu connectes ça à tel autre point, à un troisième point, il me dessine sur mon tableau dans mon bureau. Et il me dit, si tu connectes tout ça ensemble, je pense qu'on va avoir la meilleure technologie de vaccin du monde. Je lui dis, je suis un ingénieur, alors j'ai fait la biologie et tout, mais je ne suis pas médecin. Je lui dis, tu veux me réexpliquer encore une fois, je comprends vraiment bien tous les détails. Il me réexplique ces 3 points qu'il a connectés dans sa tête, là. Et je lui dis, ah merde. Ça a l'air super. Et je lui dis, bon, qu'est-ce qu'on va faire? Il me dit, t'inquiète pas, les équipes sont déjà dessus. on saura dans 1 mois. Ils débarquent 1 mois après. Ils ont fait une expérience hyper simple, que tu n'as pas besoin d'être scientifique pour comprendre. Ils ont donné à 10 souris un vaccin contre la grippe, 10 souris du placebo, donc de la flotte. Et après, ils ont donné une énorme dose de virus de la grippe. Les 10 souris sous placebo de l'eau sont mortes. Et les 10 souris sous vaccin n'ont rien vu qui s'est passé, elles n'ont pas eu de température, elles n'ont eu aucun signe, rien. Et l'autre, morte. Donc, c'est une dose terrible de virus, c'est ce qui fait généralement. Et donc, c'est l'équipe. Alors, Steven aime toujours mettre ses équipes en avant, c'est jamais lui. Donc, ce n'est pas lui qui m'a expliqué ça. Il a fait venir la personne qui s'appelle Eric, qui est un Taïwanais, qui nous explique ça. Et lui, on regardait, il a dit, c'est pas possible, Eric, il y a une connerie. Et il a dit, refais tout, quoi. On lui dit, c'est pas possible. Et donc, Eric, il repart, c'est un peu dans la gueule. Il débarque 1 mois après, il a un sourire jusqu'aux oreilles, le même résultat, parce qu'ils ont tout, vous refaites l'ARN messager de zéro, vous refaites tout, vous n'utilisez pas, c'est la même matière première, hein, le même vaccin, je vous refassez tout de zéro. Et un mois après, ils ont refait, et en plus à l'époque, je crois qu'ils ont fait 40 souris dans chaque bras d'études pour en plus faire voir que c'était vrai, 40 souris mortes, 40 souris sans aucun effet du virus, et là on se dit merde. Et donc on part dans les vaccins à fond les ballons, notre premier essai clinique est un vaccin. Et bon, quand le virus SARS-CoV-2 apparaît, on a déjà mis 9 vaccins en essai clinique. On a changé le lipide, parce que le lipide initial, qui est d'ailleurs, petite histoire dans le vaccin BioNTech Pfizer, était OK, mais pas top. Et donc, Steven, il n'était pas satisfait. Il dit non, il se dégrade pas assez vite dans le corps. Je vais inventer un nouveau lipide. Et donc, il a inventé entre-temps un nouveau lipide. On met d'autres vaccins en essai clinique et après, la COVID débarque.
Tu travailles sur la grippe? La Covid va te donner raison. Ce qui est bien, c'est là, c'est intéressant. Les gens vont pouvoir connecter les points entre toi qui avais commencé déjà à travailler dessus, ouais. Avoir les premières réflexions vaccins, les premiers tests. L'épisode de l'épidémie arrive, on s'en souvient tous. T'es décrit, je le disais dans l'introduction, comme le Français qui va peut-être sauver le monde, puisque c'est comme ça qu'on te présente au président Donald Trump lors d'une réunion que tu as le 2 mars 2020. Donc, on est en plein début de crise. Mmh. Qu'est-ce que tu as pensé, là? On peut se parler entre toi et moi, personne ne nous entend, là.
Ah, bien sûr.
De Donald Trump, là, quand tu l'as en face de toi.
C'est début mars, hein, comme tu dis. Donc, le monde n'a pas vraiment encore réalisé que c'est une pandémie.
Il n'est pas encore fermé.
Sauf quelques-uns d'entre nous. On habitait donc à la Maison-Blanche. Alors, c'est intéressant parce que j'ai été briefé par une équipe de Washington qui gère tous les affaires politiques et tout, et qui me disent... Bon, généralement, il aime bien avoir les médias qui viennent pour parler un petit peu aux médias, puis généralement après, les médias partent, et après, ça bosse. Donc, les directeurs généraux qui sont invités, je pense, 7 ou 8, ainsi que ben, Fauci, donc le patron du NIH, le patron de la FDA, etc., le ministre de la Santé sont dans la salle déjà, donc on discute pendant 1 heure de pas mal de trucs. Le président arrive, il fait le tour de la table, il est présenté par le ministre de la Santé. On est tous présentés par le ministre de la Santé au président. Il s'installe, donc il fait 2-3 remarques assez générales sur le fait que l'industrie doit se mobiliser, que le gouvernement est prêt à aider, etc. Et il dit à un moment, bon, on va laisser entrer les médias, ils veulent vraiment venir, et puis après on les laissera partir et on bosse. Et donc les médias rentrent, alors moi je suis pas habitué aux médias, mais si tu veux, comme tu as vu voir la photo, ils m'ont mis en face du président pratiquement, et donc j'avais tous les médias derrière nous, et il y avait toutes les chaînes de télé, etc. du monde entier, et j'étais littéralement... broyé, j'avais les côtes broyées sur la table parce que j'avais les caméras derrière qui poussaient ma chaise, etc. Et j'avais les micros au-dessus de la tête qu'on voit pas nécessairement, si tu veux, Donc c'est vraiment un monde totalement étranger pour moi. Et donc le président fait quelques commentaires sur le fait qu'il faut aller vite, l'industrie, médicaments, vaccins, etc. Et puis là où il nous surprend tous, et moi le premier, c'est qu'au lieu de faire sortir les médias, il se tourne à la patronne de GSK, donc Emma qui est à sa gauche. Ils ont mis la seule femme patronne d'une boîte pharma à sa gauche. Et il se tourne vers Emma et il dit « Emma, qu'est-ce que GSK fait pour la pandémie ?» Et là, je me dis « Oh merde !»
Ça va être un tour de table.
Ça va être un tour de table à la télé, en live, avec la planète entière qui écoute. Et donc, j'avais préparé des notes et je ne sais pas si ça se voit ou pas à la télé, je prends mon stylo et je commence à barrer plein de trucs que je ne veux pas dire publiquement, quoi. Et rajouter des trucs à la main, etc. Puis le tour de table continue, etc. Et puis, ça arrive à moi où effectivement, il me dit « Et donc, vous, Stéphane, qu'est-ce que vous faites ?» Et donc, je lui décris que... Donc, c'est le 2 mars. Je lui décris qu'on a un vaccin sur lequel on bosse avec le NIH, Tony Fauci, depuis début janvier, et qui va être en clinique quelques jours qui arrivent. Il a été, en fait, le 16 mars, premier dosage humain.
Tu dis, en fait, vous, avec l'État américain, vous aviez vu... Ils ont vu ce qui se passait en Chine.
Non.
Donc, tu es là, on parle en janvier. Donc, c'est avant que les médias s'en emparent. Et donc tout de suite, en fait, il voit la chose arriver, il te contacte. Comment ça se passe derrière la scène?
Ce qui se passe, en fait, c'est, comme tu as dit tout à l'heure, c'est je lis le Wall Street Journal depuis que je suis gamin tous les jours. Et donc, c'est entre Noël et le jour de l'an 2019. Je suis dans le sud de la France avec ma famille pour les fêtes de Noël. Et je lis le Wall Street Journal, il doit être 6h du matin, je suis seul, tout le monde dort dans la maison. Et je lis le Wall Street Journal, et il y a un petit article peut-être de 30 lignes qui dit qu'il y a des cas surprenants de pneumonie non expliquée en Chine. Et là que tu connectes les points, j'ai vécu toute ma vie en infectieux chez bioMérieux, et j'ai toujours suivi les pandémies. À bioMérieux, on était, pendant que tu te souviens, la grosse crise de grippe dans les cochons au Mexique, 2009. Hein, donc je suis à la tête de bioMérieux, donc on est très impliqué, parce qu'on avait un kit qui a pu permettre d'aider cet outbreak qui n'est pas devenu pandémie, heureusement. Et donc, tout de suite, j'étais sur mon iPad, j'appuie sur il y avait encore le bouton, je double-clique sur le bouton, je flippe l'app pour mettre mon email, et j'envoie un email à Tony Fauci. Et je dis « Tony », parce que je connaissais Tony depuis des années, je dis « Tony, ce truc en Chine, c'est quoi ?» Et donc, quelques heures après, avec le décalage horaire, parce que c'est 6h du matin en France, donc quelques heures après, j'ai Tony qui me répond, il me dit « On est au courant depuis quelques jours, on ne sait pas encore, je te tiens au courant. » Et donc, je commence à suivre à Google, à suivre dans... Et puis, on apprend début janvier, je crois, le 2-3 janvier, je crois, je viens juste de rentrer aux États-Unis où j'étais le dernier jour en France. Et on sait que ce n'est pas une bactérie, ce qui était hyper important, parce que ni BioNTech ni Moderna, à l'époque, aujourd'hui on sait faire des vaccins contre les bactéries. Donc, si c'est une infection bactérienne,
là, il n'y avait rien à faire.
Ouais, Moderna et BioNTech étaient hors jeu à l'époque. Aujourd'hui, on sait faire des vaccins contre les bactéries. Et donc, c'est un virus. Et 2-3 jours après, pareil, via l'équipe de Fauci, j'apprends, c'est pas une grippe et c'est pas SARS, donc le SARS-1, ou le MERS, c'est celui du Moyen-Orient, mais c'est un coronavirus. Mais c'est pas un des deux qu'on a déjà
fait.
C'est un nouveau coronavirus. Et là, la chance qu'on a eue, qu'on était préparé, c'est qu'on avait bossé avec Fauci, je connais que les points, par rapport à ce qu'on disait à Alain Mérieux il y a 2 minutes sur les pays émergents. On avait bossé avec Fauci depuis à peu près 1 an sur faire un vaccin contre le MERS, parce qu'on était inquiet que le MERS allait revenir. Donc, je ne sais pas comment dire en français, mais c'est celui du Moyen-Orient, le corona du Moyen-Orient. Et donc, on a bossé sur un corona en fait, depuis 1 an dans la technologie Moderna. Et on a réalisé, avoir testé plein de protéines du virus, qu'en fait, que le meilleur vaccin avec la technologie Moderna, c'est la protéine Spike en entier, pas par bout.
Tu arrives à ce moment-là, donc ce qui te permet de dire devant toutes les télés du monde, quand tous les patrons des grands laboratoires qui sont autour de toi, que ça prendra des années, qui sont extrêmement très politiques aussi. Là encore, toi, t'es entrepreneur, t'es de ta propre boîte, t'es en bourse. Et là, tu dis, moi, je sais le faire.
Ouais.
Tu le dis, on est d'accord. Ouais. Je sais le faire.
Voilà, la raison, elle est assez simple en fait, mais encore une fois...
Mais c'est un coup... T'as vu le coup marketing? Pas du tout.
Zéro.
Donc toi, tu dis ce que tu penses.
Attends. Je dis ce que je pense, parce que surtout on est en train... Moi, je suis convaincu depuis le 24 janvier 2020, donc ça fait partir en plus d'un mois, un mois et demi, que je suis convaincu que ça va être comme 1918. Une pandémie où des milliers de gens...
Là, tu parles de la grippe espagnole, en 1918, disons 1919.
Ouais, grippe espagnole, 18-19. Et donc, je suis convaincu que c'est une pandémie. Au début, je pensais que ça allait être comme SARS ou MERS. Ouais. Ce qui m'intéressait au début, quand j'étais en contact quotidien avec les équipes de Tony, c'était, j'avais dit à Tony en septembre 2019, je pense qu'on peut être en clinique en 60 jours, s'il y a une pandémie. Et Tony et son équipe étaient morts de rire du franchouillard avec son accent français à couper au couteau. Et littéralement, ils étaient morts de rire en fin de journée à cette réunion. Et il me dit, Stéphane, tu réalises qu'il nous a fallu 2 ans pour avoir le premier essai clinique qui démarre, première dose dans un être humain, quand il y a eu SARS. 2 ans. Et tu me dis que tu fais ça en 2 mois. 10 fois plus rapidement. Je dis, ouais. Et donc, mon but au début, c'est de prouver à Tony que je peux faire ça en 2 mois.
Que le franchouillard, voilà. Il va te démontrer ce qu'il s'est fait.
Et après, ça devient je pense que c'est une pandémie fin janvier.
Même chose, tout à l'heure, tu nous as expliqué d'une manière très simple ce qu'est Moderna. Est-ce que tu peux nous expliquer, parce qu'on entend tous, on a beaucoup toutes et tous entendu des essais cliniques, 1, 2, 3, 4. Tu peux nous expliquer, quand tu arrives à ce moment-là, le 1, 2, 3, 4, qu'est-ce qui se passe quand toi, tu crois à quelque chose, à quel moment tu vas pouvoir l'inoculer chez l'être humain?
Ouais. Alors,
le 1.
Voilà, alors la phase 1, qui est donc la première étude que tu fais pour voir la sécurité du produit et essayer de trouver une dose où tu as la réponse que tu désires et voir est-ce que tu peux avoir une dose qui n'a pas d'effet secondaire grave au niveau santé, qui donc te ferait que le produit soit mort. Parce que si tu imagines que tu as besoin d'une dose où les gens ont beaucoup de toxicité, c'est fini, il n'y a pas de produit, bien sûr. Et donc...
Donc la phase 1, c'est,
elle démarre le 16 mars.
Donc, et tu l'inocules chez qui? Chez les êtres humains?
Ouais, le 16 mars.
Donc il n'y a pas de placebo? Tu vois,
on fait placebo aussi, parce qu'on fait placebo.
Donc c'est 2? Non, non. C'est placebo, ouais, aussi.
Il y a aussi placebo, phase 1. Okay.
Donc en gros, tu m'expliques ce qu'est un placebo peut-être?
Un placebo, c'est que tu donnes de l'eau, quand c'est le cas d'un vaccin, ouais. Sinon c'est du sucre dans une gélule. Tu donnes de l'eau, c'est pour savoir les effets secondaires, s'ils sont liés au produit ou si c'est...
Donc tu prends deux populations
différentes
ouais, mais similaires.
Ouais.
Et un, tu donnes de l'eau.
Et l'autre,
ils ne savent pas. Hein, donc personne ne sait. Et l'autre,
Médecin, voilà, ni le médecin, ni le patient savent.
D'accord. Mais c'est quand même assez. Il y a beaucoup de volontaires pour ça. Tu trouves tout le temps. Bien payés pour ça.
Non, ils sont payés bien sûr, mais c'est pas des fortunes. Ils sont payés évidemment.
Donc là, tu devais trouver des gens qui l'avaient.
Non, parce que les vaccins, c'est toujours des gens qui sont sains, qui ne sont pas infectés.
D'accord, c'est très intéressant.
Si tu voulais faire un essai clinique sur un traitement, il te faut des gens malades.
D'accord. Donc là, tu as raison. C'est un vaccin, donc globalement...
C'est des gens sains.
C'est des gens sains pour... Et après, tu vas leur inoculer.
Non, ça, tu ne fais pas. Ce n'est pas éthique, ça. Non. Ce que tu fais pour la phase 3, ce qu'on a dû faire, c'est que tu vaccines plein de gens. Donc, on a vacciné 30 000 personnes, 15 000 placebo, 15 000 vaccins. Et tu attends un nombre de cas d'infectés confirmés par PCR.
Là, tu leur dis, sortez de chez vous.
Donc, la phase 3 qui démarre le 29 juillet, qui est la phase, bien sûr, finale, qui est énorme, qu'on n'a jamais fait de l'histoire de Moderna, on n'a jamais fait de phase 3. Donc, 30 000 personnes, 15 000 prennent le vaccin, 15 000 prennent le placebo, et après, tu comptes les cas. Donc, on avait de mémoire, je crois, 80... Il fallait, statistiquement, c'est tout fait avec des mathématiques et tout, pour la FDA, qu'on ait 89 cas pour voir... Parce qu'après, tu regardes, ça s'appelait unblindé, donc tu regardes, c'est pas nous, c'est un comité éthique indépendant, qui regarde en fait qui était dans quel groupe de placebo ou du vaccin pour voir c'est quoi l'efficacité du produit, ce que ça fait de le ratio sur les gens qui ont eu le vaccin, combien ont été malades.
Et donc là, tu dois être au-dessus de
50%. La FDA avait dit on veut au moins 50% pour approuver un produit parce que c'est la pandémie et tout, et on sort 95%.
Ah, tu te souviens quand tu as le chiffre?
Ouais, je me souviens, ouais.
Le sourire, il est dingue.
Ah, c'était un moment extraordinaire de ma vie que je n'oublierai jamais, quoi. C'était un dimanche, j'étais à la maison. Et donc on savait que le comité éthique se réunissait parce qu'on a traversé le nombre de cas, donc le nombre de cas a eu lieu je crois le mercredi. Donc Steven me dit tiens, on vient d'avoir nos 89 cas. C'est là que la pétoche tombe, c'est dit oh putain, on va voir les résultats. Et il me dit le comité éthique donc est en train de déplucher tous les dossiers patient par patient, de faire la qualité contrôle pour s'assurer qu'ils ne font pas d'erreur bien sûr d'analyse ni rien. Donc c'est tout vérifié 2 fois. Et il dit, et ils ont prévu, parce qu'ils bossaient comme des bêtes, tout le monde bossait comme des bêtes. Hein. Et ils ont prévu dimanche matin un comité d'éthique. Donc ils vont tout regarder les données et ils nous appelleront après. C'est comme ça, on est courant de rien, quoi. C'est terrible. Et c'est pour ça que les gens qui écoutent doivent savoir que le processus de développement des médicaments en termes d'éthique et vraiment pour s'assurer que tout est bien fait pour la protection des gens est super bien fait.
Et heureusement.
Et donc, oui, heureusement, bien sûr. Et donc, on passe 4 jours à pétocher comme des malades. Et le dimanche matin passe et tiens, je reviens à maman toutes les 10 minutes et tout.
Ils t'appellent?
Non. Et Steven me dit, je t'enverrai un texto. Parce qu'à un moment, à la fin du comité, on n'est même pas invité au comité d'éthique, pour qu'il n'y ait aucune influence des sociétés. Ouais. Donc, ils se réunissent, ils analysent tous les chiffres, etc. Et à la fin, ils appellent ce qu'on appelle le sponsor, donc la boîte, qui sponsorise ces cliniques. Et donc, on se joint au call, qui était sur Zoom et tout. Et donc, Fauci, il faisait partie de, pour tous les vaccins, il était au comité d'éthique de tous les vaccins. Et donc, on se joint au call. Alors, Steven m'envoie un texto, il me dit, voilà le numéro, join. Et donc, j'étais dans mon bureau, j'essaie de me patienter, je me connecte. Et c'est Tony qui prend la parole. Et il dit, je suis hyper heureux de vous dire que les résultats sont extraordinaires. Le vaccin a l'efficacité de 95%.
Tu sais ce que tu as dit à ce moment-là?
J'ai rien dit.
On était sciés, ouais.
Tous. Il y en a qui pleuraient et tout, on était sciés, ouais. Et donc, il nous explique les trucs, quelques détails techniques liés à ce qu'on fait. Et puis, on raccroche au bout de 10 minutes, donc c'est hyper rapide et tout, quoi. Et puis, je me souviens, je sors de mon bureau, je suis à la maison, donc dimanche, et je vais à l'escalier, parce qu'on a une maison de 6 étages de ville, et je crie Chloé, Olivia, Brenda, et donc tout le monde débarque. Parce qu'ils savaient, parce que j'aurais dit que, parce que j'étais ingérable.
On ne parle pas à papa ce soir.
J'étais ingérable, quoi. Et tout le monde arrive, et je leur dis, et on s'est tous pris dans les bras de famille, et on a tous pleuré comme des madeleines, quoi. Ah, j'en souhaite toute ma vie.
Ah, ça doit être un moment unique dans ta vie, ça.
Ouais. C'était assez extraordinaire, quoi. 10 ans de boulot, d'échecs, de moments super durs, ouais. Et puis 12 mois de fou, qu'on a bossé les samedis, ouais. Les dimanches, toutes les semaines, quoi.
Parce que c'était ta réussite à toi, mais tu savais de facto, t'allais sauver des vies. Alors là, c'est...
Ouais, c'est ça, c'était sûr, c'était que... Et c'est intéressant, parce que j'ai souvent été invité depuis, tu sais, dans des business schools, et tu sais, souvent, j'ai la question, c'est quoi votre... secret de leadership, de... Et je lui dis, ça a été, au niveau leadership, le job le plus simple de ma vie, quoi. Parce que j'ai jamais eu besoin d'expliquer aux gens, de demander aux gens des sacrifices énormes et tout. Tous les collaborateurs, à tous les niveaux, ont été, pendant toute l'année, on a bossé comme des bêtes, avec une motivation que j'ai jamais eue de ma carrière, parce que c'était personnel pour tout le monde, quoi.
Parce que tout le monde est un... Bien sûr.
Et tout le monde a les enfants, les inquiets des parents, et
l'égoïsme
des époux.
Peut t'apporter ça, parce qu'en gros, tu avais aussi peur... pour tes proches.
Exactement. Ouais. Nous, on va essayer de donner, et ça, j'espère, l'essentiel durant notre vivant, mais quand personne prévoit le jour où il va mourir, on a aussi prévu que les enfants soient le conseil d'administration de la Fondation pour commencer à leur expliquer comment ça fonctionne tout ça. Depuis maintenant plusieurs années, elles ont un petit budget, toi, d'ici 10 000 euros à donner chaque année. Et l'autre partie du deal avec nous, parce que c'est facile de donner l'argent de papa et maman, c'est qu'elles doivent aussi y consacrer de leur temps.
Comment tu as vécu ce monde du dark web, de l'antivax, qui ont été durs, en tout cas, qui ont été menaçants. Toi, tu t'attendais à ça?
Non, ça a été un des chocs qui m'a moins affecté que Brenda. Elle m'a dit plus tard, très, très inquiet pour ma sécurité. J'ai eu beaucoup, beaucoup de menaces de mort. J'ai encore aujourd'hui, malheureusement, aux US... un ancien du service secret américain qui est mon bodyguard, qui me surveille, qui est armé en permanence. Devant la maison, on a 24 sur 24 une équipe de sécurité armée aussi. On a maintenant, comme dit Brenda, des fenêtres qui ont été changées avec des pare-balles.
Comment tu l'expliques, ça?
Ben, c'est l'aspect un petit peu fou du monde dans lequel on vit aujourd'hui. C'est qu'il y a tellement de désinformation. Ce qui a été très dur aux États-Unis par rapport à la culture américaine, c'est les mandats. À l'époque où le président Biden a mis des mandats sur les vaccins, donc je pense c'est vers l'été 2021. C'est qu'au début, bon, les gens qui voulaient se faire vacciner, super, mais ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner...
C'était pas obligé.
Voilà. Je pense que la France a bien joué avec le pass sanitaire, disant, voilà, si vous voulez tel genre de choses dans votre vie, ben, c'est ça qu'il faut faire pour protéger les autres, mais vous n'êtes pas obligé. Les États-Unis n'ont pas pris cette approche-là, c'était de rendre des mandats. Et tu sais, dans cette culture de liberté à l'américaine, surtout tu sais, dans le Midwest, où les gens, on va dire, d'extrême droite, etc., ça a été vraiment très extrêmement mal vécu, ça, ouais. Très, très mal vécu. Et malheureusement, les dirigeants des boîtes de vaccins, parce que je sais que c'était la même chose chez Pfizer ou d'autres sociétés, parce que nos équipes de sécurité sont toujours en contact permanence pour essayer de s'entraider, bien sûr. Pareil avec les équipes du gouvernement, parce que les gens comme Tony Fauci, etc., ont énormément de menaces de mort, même d'attentats, certains manqués sur certaines personnes que je connais. Ça a été l'aspect le plus surprenant de tout ça, quoi.
Et juste après que tu nous parles et que tu nous dises ce moment de joie absolue, de bonheur pur, quand tu es heureux pour le travail de tes équipes, de toi, mais
aussi pour l'impact sur les,
pour l'impact sur les autres, c'est tout ce que tu fais, que Brenda et tes deux enfants et deux filles reconnaissent. Ah, quelques minutes après, on se rend compte que tu as des groupuscules qui n'acceptent pas. On va continuer. Toi qui passes et qui passe ta vie depuis que tu es sorti de l'école sur ces sujets biologiques, qu'est-ce que tu vois arriver? Tu me parlais du SRAS, du MRAS. On a vu tout ce qui est corona, parce que en effet, ça s'appelait coronavirus au départ. Comment tu le vois, toi? Parfois, les gens me posent la question, est-ce que ça peut revenir? Tu penses qu'on n'est pas à l'abri?
Non, on n'est pas à l'abri du tout. Et même mes équipes scientifiques pensent que la chance d'une autre pandémie à l'horizon 5 ans est à près de 50%. Alors, la bonne nouvelle, c'est que je pense que la prochaine fois, on pourra faire le vaccin en 6 mois, au lieu de 12 mois, qui était déjà un record. Je pense qu'aujourd'hui, on est capable de faire ça en 6 mois. Et l'outil industriel, qui est un autre aspect que les médias, en fait, ont très mal couvert. Les médias ont fait un super boulot, je pense, de garder les gens au courant de tous les essais cliniques, des données, etc., pendant cette année incroyable 2020. Mais en fait, très peu de médias ont couvert l'histoire industrielle du challenge que ça a été de partir avec aucun outil industriel, aussi bien chez Pfizer que chez nous. Il n'y avait rien, quoi. On a fait 100 000 doses pour l'essai clinique en 2019, quoi. Et le 24 janvier, je débarque chez mon patron de la prod, qui est un Espagnol, et je lui dis, Juan, comment est-ce qu'on fait un milliard de doses l'année prochaine? Et il me dit, c'est que ça fait 10 000 fois plus de produits, quoi. Et je lui dis, ouais, tu perds du temps. Comment est-ce qu'on fait un milliard de doses l'année prochaine, quoi? Et donc, si tu veux, ça a été quand même, à ce niveau-là, une aventure vraiment incroyable, quoi.
Donc, ce que vous dites là, c'est que ça risque de revenir,
ouais.
Mais que les outils de production...
Voilà, feront qu'on dira beaucoup plus, parce qu'un des jours le plus triste pour moi de l'année 2020, c'est le jour de l'approbation du vaccin, ce qui a l'air bizarre, hein, parce que j'avais les données, le monde entier avait... Moi, je l'ai le dimanche, ça a été public le lundi. Mais un mois après, donc, le vaccin est approuvé, après revu par la FDA, etc., etc. Et donc, le jour d'approbation, qui était pour moi donc, le jour le plus triste de cette année-là, c'est qu'on a uniquement envoyé 20 millions de doses. On avait en fait fabriqué depuis 9 mois que 20 millions de doses, parce qu'on construisait l'outil industriel, on démarrait de rien. Et donc, on avait fait le plus de doses possible qu'on avait...
Mais c'est n'était que 20 millions.
Et ça a été pour moi un jour horrible, quoi.
Et tu penses que tu aurais dû justement t'associer comme... Pfizer avait pu faire. Est-ce que tu penses que tu aurais dû t'associer justement avec un grand pharma qui pouvait...
On ne sait pas aller plus vite. Parce que sur Pfizer, pareil, ils ont mis 20 millions ou 25 millions de doses au démarrage.
Et aujourd'hui, tu pourrais...
Aujourd'hui, en 6 mois, je pourrais sortir 2 milliards de doses. Donc, si on repart sur les timelines Covid, si on aurait un vaccin à l'été 2020 avec 2 milliards de doses en train de partir dans les frigos.
L'État, dans ces cas-là, parce que c'est des sommes considérables qui vont être demandées, vous n'avez pas vous, c'est l'État qui te...
Alors,
c'est
l'État américain a été extraordinaire. Je ne sais pas qui a donné l'idée au président Trump, mais cette personne-là a sauvé beaucoup de vies. Ils ont dit, vu juste l'impact économique qu'il est en train d'avoir, l'argent ne peut pas être une raison de ne pas faire tout ce qu'on peut. Et donc, ils ont une super idée. Encore une fois, je ne sais pas qui a cette idée-là. Ils ont embauché le gouvernement américain Moncef Slaoui, qui était l'ancien patron des vaccins de GSK, qui est un des meilleurs dans le monde, je pense, en niveau vaccinologie. Il a été embauché par le gouvernement américain. Et l'analyse qu'il a faite, c'est de dire on va parier sur trois technologies. Les protéines, donc la vieille technologie de Sanofi, GSK et d'autres, qu'on pense va marcher, mais qui va mettre le plus de temps. On va parier sur les adénovirus, donc la technologie d'AstraZeneca et de Johnson & Johnson, qui a un produit approuvé, mais contre l'Ebola, donc on n'a pas vraiment d'idée de la sécurité à grande échelle. Mais on sait que c'est un produit qui peut marcher, parce qu'au moins, il y a une phase 3 de fait. Et on va parier sur l'ARN messager, où il n'y a jamais eu de phase 3 en vaccin fait. Nous, on a fait uniquement une phase 2. Puis un tech n'avait jamais fait de vaccin en infectieux, ils avaient fait de l'oncologie. Et on va parier sur ces trois technologies. Et en parallèle, on va parier sur deux compagnies par technologie pour dérisquer le risque sur une compagnie. Et
quel montant?
Ils ont mis... Ben nous, on a eu à peu près un milliard au début. Après, ça finit avec un milliard et demi quand ils ont demandé de faire des choses en plus. Et ça, ça a été assez extraordinaire parce que ça nous a permis de tout faire en parallèle. C'est-à-dire qu'on a pris énormément de risques financiers pour gagner autant de temps que possible, mais prendre aucun risque sécurité pour les gens dans les essais cliniques.
Ça va te revenir 3 ans après. C'est un effet boomerang. quand un sénateur va te faire témoigner, parce que tu as témoigné, c'est un autre, mon avis, moment assez gris ou noir de ton existence à la tête de Moderna, où tu as dû faire un hearing, comme on dit aux États-Unis, où tu as été convoqué parce que les gens, enfin, en particulier un sénateur, a dit ben, « on vous a donné, nous, État américain, beaucoup d'argent, comment vous expliquez aujourd'hui que ça coûte tel prix, ainsi de suite ?» Là aussi, tu as été étonné, choqué, déçu par la récupération d'une frange des politiques américains.
J'ai pas été étonné parce que on avait parlé au moment où on a pris donc la bourse qu'on a reçue. Pour la petite histoire, pour ceux qui n'ont pas suivi ça de près, Pfizer a refusé l'argent du gouvernement américain. C'est la seule société. Donc AstraZeneca l'a accepté, Johnson & Johnson l'a accepté, Sanofi, GSK a accepté l'argent américain. Pfizer a refusé et son patron, qui est un homme extraordinaire, hein, qui a fait un travail extraordinaire pour le monde entier, Albert Bourla, a dit publiquement à la télé ou à la radio, je ne sais plus, en septembre 2020, quand on lui a posé la question, pourquoi vous avez refusé ? Il a dit parce que quand vous recevez l'argent de l'État américain, it always comes with strings attached. Et donc lui, il a dit...
il y aura toujours, ce que tu dis, c'est qu'il y aura toujours... Il y a pas, c'est pas totalement pur et gratuit.
Voilà. Et donc on s'y attendait d'un retour de bâton. Il a été beaucoup plus dur que prévu, d'autant plus que ce qu'on avait fait avec le conseil d'administration de Moderna, c'est donc on a eu donc la bourse pour payer les essais cliniques. Donc nous, on a financé via une levée de capitaux sur les marchés financiers la construction de l'outil industriel. Donc on a levé 1,3 milliard de dollars en mai 2020 sur les données de la phase 1 parce que personne ne voulait nous aider, y compris le gouvernement américain, à construire l'outil industriel. Et on leur avait dit, les gars, si le vaccin marche, qu'on pense va marcher et qu'on n'a pas d'outil industriel, c'est un désastre humanitaire, quoi. Et donc, on a dû attendre les données pour pouvoir lever de l'argent, ce qu'on a fait. Et ce qui s'est ensuite passé, c'est qu'en septembre, le gouvernement américain a fait avec les sociétés, donc les 6 sociétés, des contrats d'achat, d'approvisionnement de vaccins. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dit avec le board, dans la proposition qu'on va leur faire, qui est une lettre que j'ai signée moi-même en tant que patron et que j'ai envoyée donc à l'administration américaine, on a proposé nous-mêmes, c'est pas eux qui ont demandé, on a proposé de donner un discount par rapport au produit Pfizer pour le volume qu'ils avaient demandé, équivalent en dollars à la subvention qu'on avait reçue. Donc 1,5 milliard, il s'est trouvé qu'ils ont commandé plus de produits que le contrat initial. Donc en fait, on leur a fait une ristourne de 2,5 milliards par rapport à ce qu'ils ont payé pour le vaccin d'ARN messager de Pfizer. Et ça, si tu veux, l'appareil politique... dans la motivation était vraiment politique, pas factuelle, si tu veux, l'a totalement négligé. Alors, bien sûr, c'était dans tous nos documents qu'on a vu que les médias, la lettre, on l'a montré, si tu veux, à des gens qui, en fait, nous ont aidés pendant ce témoignage au Sénat. Mais si tu veux, c'était vraiment la politique, parce que les chiffres étaient tous amalgamés. Elle disait, le gouvernement américain vous a donné 10 milliards de dollars. Non, il ne nous a pas donné 10 milliards de dollars. Il nous a donné une subvention de 1,5 milliard, qu'on a remboursé 2,5 milliards par discount, et ensuite, ils ont acheté des produits. Si tu veux, comme ils ont acheté à Pfizer ou à d'autres sociétés, mais ça a été politiquement dit, on leur a donné 10 milliards de dollars.
Une très mauvaise semaine pour toi.
Ben, c'était, si tu veux, pas fun d'être insulté publiquement avec la planète entière qui regarde. On sait ce qu'on a fait pour la planète, on sait les faits et les chiffres financiers que je viens de te décrire. Donc c'est une de ces injustices qui existent aujourd'hui dans un monde politisé, hyper médiatisé, etc. Ce que j'ai pensé, ça a été utilisé beaucoup pour la campagne de levée de fonds de certains hommes politiques qui nous attaquaient. Parce que j'ai vu les clips qui m'ont été envoyés par nos équipes, etc. Où tu vois que c'était purement politique pour lever de l'argent. C'est assez triste, quoi.
Parlons d'oncologie. Vous en êtes, tu es positif sur tous les cancers.
Je pense qu'on a une percée extraordinaire qui est en train d'avoir lieu via la plateforme de Moderna sur le cancer, qui, je pense, initialement, va marcher sur l'essentiel des cancers, ce qu'on appelle d'organes solides, donc non leucémie. Hein. Les leucémies, c'est à peu près 10%, les cancers du sang, à peu près 10% des cancers en termes de nombre. Hein. 90%, ce qu'on appelle les cancers solides dans le métier, donc du sein, la prostate, etc. Donc, les données qu'on a aujourd'hui, c'est sur le cancer de la peau, mais vu que...
C'est là où vous êtes le plus avancé.
Voilà, en termes de données dans l'homme. Sur des patients, bien sûr, qui ont des cancers de la peau. Et les données qu'on a montrées, c'est que comparé à la meilleure molécule disponible aujourd'hui, donc on n'a pas pris la molécule moyenne ou la meilleure molécule disponible aujourd'hui, on a montré 65% de réduction de métastases qui se développent ou de mort par rapport aux
65%.
Gens. 65%. Donc, plus d'une personne sur deux est en fait en rémission. Sur l'instant, ça s'est donné à deux ans après leur opération, donc pour enlever leur cancer au niveau chirurgical. On a d'ici la fin de l'année 2023, donc, qui arrive, les données à 3 ans. J'ai un pari avec mes équipes que les données à 3 ans seront meilleures que les données à 2 ans. Parce que si tu regardes les courbes de survie, encore une fois, tu n'as pas besoin d'être médecin pour comprendre les courbes de survie. La courbe de survie des gens qui ont le produit Moderna s'est aplatie. La courbe de survie du meilleur produit sur le marché continue à descendre. Et l'avantage qu'on a, c'est qu'on connaît les données entre 2 et 3 ans de ce produit-là parce qu'il est déjà approuvé. Donc, ils ont déjà de leur phase 3. Et tu vois qu'entre 2 et 3 ans, ça continue à descendre. Donc, les paris que j'ai avec mon équipe, c'est que notre courbe va rester plate et que leur courbe continue à descendre.
Donc, des facteurs est plus important.
Plus important.
Comment tu te projettes? Quand est-ce que le grand public pourra avoir accès à ces produits?
Alors, je pense que dans certains pays, ça va dépendre beaucoup des décisions des agences réglementaires dans différents pays ou régions. Je pense que les premiers, c'est potentiellement 2025 pour le grand public. Si les données qu'on a d'ici la fin de l'année à 3 ans sont positives, 2025, on est en train de construire une usine parce que c'est des produits qui sont en fait individualisés. Donc, c'est notre folie Moderna. C'est qu'on a fait un même produit pour littéralement des milliards de gens, ce qui sont des volumes même pour l'industrie assez incroyables. Et là, on construit une
industrielle. C'est juste l'inverse, quoi.
C'est totalement l'inverse, où littéralement, si toi et moi, on a un cancer de la prostate diagnostiqué le même jour, Moderna fera pour Alexandre et Moderna fera pour Stéphane deux produits physiques, chimiques différents.
Donc, adaptés parfaitement à mon ADN.
À l'ADN de ta cellule cancéreuse.
Ma cellule cancéreuse.
Ouais. Qu'on comparera à ta cellule saine.
Tu me disais d'ailleurs d'une manière... assez direct, mais aussi franche et avec un peu de malice, ne sois pas malade dans les 10 prochaines années. N'aie pas de cancer dans les 10 prochaines années. Ça veut dire que pour toi, dans 10 ans, tu vas continuer à améliorer la technologie et à peu près tous ces cancers, tu veux me dire physiques, hein, avec un organe attaché, tu penses que...
Je pense que la plupart seront gérables par nous et j'ajouterai une dimension importante, parce que je suis sûr que certaines personnes qui vont entendre ça ne vont pas me croire, bien sûr, comme quand je dis qu'on aura un vaccin d'ici la fin 2020. Mais ça, j'en ai l'habitude depuis 12 ans, c'est qu'il y a une autre évolution extraordinaire qui est en train d'avoir lieu hors des murs de Moderna. C'est ce qu'on appelle les biopsies liquides. Donc, en fait, c'est la capacité aujourd'hui de pouvoir trouver des cancers très tôt via une prise de sang. Donc, c'est disponible aujourd'hui. Comme je suis un curieux
t'es un geek total.
Donc, j'ai bien sûr essayé le produit, maintenant deux fois. Le prix est encore un petit peu élevé, mais comme tout, avec les effets d'échelle, je pense qu'on doit avoir un produit qui serait sans doute... Alors, ce n'est pas un produit moderne. Hein. Des produits sans doute autour d'à peu près $100, je pense, par test.
Qu'aujourd'hui, ils sont plutôt à $800.
Voilà, exactement. Et qui permettent de voir dans une prise de sang avec des faux positifs et des faux négatifs très gérables aujourd'hui. C'est dans les quelques pourcents, hein, donc c'est vraiment assez précis. Et je pense que ça continue à s'améliorer parce que je pense qu'il ne faut pas... Pareil qu'entre les scientifiques qui travaillent jour et nuit sur ce genre de technologie. Et donc, je pense que la médecine, assez rapidement, va devenir qu'en faisant ton check-up annuel chez ton médecin, tu vas avec ton cholestérol, ta glycémie, etc., mais tu vas aussi faire ce test. Et que si tu fais ça chaque année, donc si tu as une nouvelle tumeur qui a uniquement moins d'un an, on sera capable, nous, via ton autorisation, via une app qu'on développera, de te demander ton autorisation à Alexandre, est-ce que c'est d'accord que cette société-là nous transmette tes informations génétiques? Et nous, on fera un vaccin, on te demandera c'est quoi ta pharmacie de ton quartier? Et on fera en 4 semaines un vaccin pour toi qu'on enverra par FedEx à la pharmacie de ton quartier, qui est un injectable dans ton muscle, hein, comme un vaccin normal. Aujourd'hui, c'est 9 doses à 3 semaines d'écart. Parce qu'en fait, on a besoin de reprogrammer ton système immunitaire pour qu'il aille bouffer ton cancer. Mais dans les données cliniques qu'on a montrées jusqu'à aujourd'hui, selon les patients, c'est entre 3 et 4 doses où ça marche. Donc, ce n'est pas impossible qu'en radio, on soit aussi capable de réduire le nombre de doses. Et c'est un vaccin qui est avec la même chimie que le vaccin Covid.
Toi, tu penses que tu aurais pu créer Moderna si tu étais resté ici en France?
Alors, on aurait pu démarrer Moderna en France, ça c'est sûr. Il y a un vivier scientifique de très grande qualité depuis toujours. Il y a des capital risqueurs de très bonne qualité en France. Hein. Ce qui a été dur, je pense, en France, initialement, et je pense qu'on a beaucoup aidé BioNTech, si tu regardes l'historique des sociétés, parce que je connais quand même bien BioNTech, ils ont été créés un an et demi avant nous, donc, et on se connaît bien avec Uğur, le patron de BioNTech. c'est ils ont une accélération énorme de leur financement en nous suivant. C'est-à-dire que si tu regardais chaque fois qu'on on faisait chaque fois des nouveaux records de levée de fonds sur les marchés privés. Hein,
et juste après.
Et juste après quelques mois, BioNTech, chez les mêmes investisseurs qui en fait diversifiaient leurs risques d'exécution de société, qui aimaient l'ARN messager, mais qui bon, Moderna peut-être va avoir des problèmes scientifiques ou techniques ou faire des erreurs. Ouais. Je gère le risque de mon portefeuille avec une autre boîte. Et donc, si tu veux, il faut voir que au bout de 4 ans. On a levé un total de 500 millions de dollars. Donc, je répète, on n'avait aucune donnée clinique. On est un petit peu plus de singes, mais on est que 6, mais on n'a aucune donnée clinique encore.
Pas de résultat.
On a levé 500 millions de dollars et le record dans la biotech avant nous, c'était de 250 millions de dollars pour une donnée avec une boîte avec des données de phase 3.
Et donc, ton point, c'est que ça aurait été compliqué d'après toi de lever ça ici. Moderna, en 10 ans, c'est quoi pour toi?
Une de mes plus grandes trouilles, c'est qu'un grand groupe nous rachète et en fait détruise la plateforme pour les produits de l'avenir. Ils utilisent les produits qui sont en essai clinique, donc les 45 produits en essai clinique verront le jour, ça je ne suis pas inquiet. Mais je pense que plus de 90% des produits que Moderna va créer dans le temps, et je prends un horizon 10-20 ans, hein, sont même pas encore inventés aujourd'hui parce qu'il y a encore des applicatifs qu'on ne sait pas faire, mais sur lesquels nos équipes bossent dur. Mais c'est une société qui, je pense, sera dans les leaders mondiaux en oncologie, sera une société qui aura sans doute 30 à 40 vaccins approuvés hein, sur plein de maladies qui, en fait, rendre les êtres humains malades sur lesquels il n'y a aucun vaccin disponible. C'est une société qui sera dans les maladies rares, dans les maladies auto-immunitaires, en cardiologie. Et je pense que dans 10 ans, il y aura même peut-être des maladies où on reprogrammera des cellules de ton corps pour transformer par exemple une partie de ton foie en pancréas si tu as un diabète.
Stéphane, je te propose maintenant une dernière pause amicale. On l'écoute.
Bonjour Stéphane, c'est Karen Lanchner du Figaro. Alors, j'ai eu la chance d'échanger régulièrement avec vous pendant le Covid, de suivre l'épopée incroyable de Moderna et de parler aussi avec vous de la place de la France dans le secteur de la santé. Aujourd'hui, j'ai une question simple à vous poser. Qu'est-ce qui pourrait, un jour, vous faire revenir en France? Ministre de la Santé, peut-être? Merci Stéphane, à très bientôt.
Question de Keren, qui est une amie que j'adore, qui suivait au Figaro le secteur santé. C'est Keren qui nous a fait nous rencontrer également. Donc, merci Keren qui te pose cette question-là. Ministre de la Santé.
Je rigole parce que je ne sais pas si c'est le type de rôle sur lequel je pourrais contribuer le plus.
Mais est-ce que tu aimerais?
Je n'ai jamais vraiment réfléchi, donc je ne sais pas.
Joker, enfin faux joker, en fait, tu n'as pas suffisamment réfléchi.
Non, je n'ai jamais réfléchi.
Mais non, toi, tu me dis toujours, je me réfléchis à 3, 5, 10 ans.
Oui,
là,
mais...
tu n'as pas.
Non, parce que si tu veux, c'est pas du tout un monde qui est le monde que je connais. Moi, je suis dans le monde de l'entreprise, je suis dans le monde de la philanthropie.
Bah justement, on va parler de ce monde-là, philanthropie. Activité philanthropique majeure, pilotée, copilotée, pilotée beaucoup par ton épouse Brenda. Toi, tu passes aussi du temps, t'aimes beaucoup ça, pas plein temps, parce que t'as quand même, on a compris, un job qui te prend un peu de temps, mais le dimanche, tu passes beaucoup de temps là-dessus. Vous financiez via votre fondation, créée en 2021, des organisations d'accès, autour de l'accès à l'éducation, à la santé, à la nourriture, santé mentale, diversité. D'ailleurs, j'en profite ici pour te remercier, pour vous remercier, Brenda et toi, du financement que vous avez fait pour cette nouvelle start-up, ce nouveau grand projet solidaire que j'ai lancé qui s'appelle Infinite, qui permet à tous ces jeunes extrêmement méritants, les meilleurs de leur classe, de faire les études qu'ils méritent de faire. C'est des pré-étudiants à taux zéro, sans garant, dans le monde entier. Donc, je te remercie encore ici. Mais Infinite, c'est un petit projet parmi tout un tas de projets que vous financez. Plein de questions par rapport à ça. Est-ce que pour toi, c'est totalement logique que le minute où vous avez suffisamment, tu avais arrêté de manger des pâtes et du beurre en espérant qu'un jour, un de tes produits puisse trouver justement l'aval du marché? Est-ce que Brenda avait cette même philosophie? Et puis, il faut qu'on en parle, puisque toi, vous avez décidé de tout dépenser de votre vivant, et on parle de...
De tout donner, pas de tout dépenser, c'est différent.
T'as parfaitement raison, merci. Ce qu'on appelle spend down aux États-Unis, c'est pour ça que je dis le spend, mais c'est pas give down aux États-Unis, on dit spend down, qui est en fait tout dépenser, mais bien ici, c'est tout donner. Donc là, beaucoup de questions, c'est normal pour toi? Il n'y a pas d'autre logique?
Il n'y a personne qui a besoin d'autant d'argent. Donc ni nous, ni nos enfants, ni personne. Et puis il y a tellement de problèmes dans le monde, de gens qui souffrent, de gens comme on fait avec Infinite, qui pourraient faire des choses de leur vie, pour eux, leur famille, l'impact qu'ils auraient est extraordinaire et tout. Donc il y a tellement de choses fantastiques qui peuvent être faites. Je ne comprends pas les gens qui ont beaucoup d'argent et qui le gardent ou qui essaient de le faire grossir, etc. j'ai aucun intérêt d'être l'homme le plus riche du cimetière. Quoi.
Ça, tu l'as dit depuis tout le temps.
Mais ce qu'il y a, c'est qu'on a toujours
même quand on n'avait pas d'argent.
On a toujours donné de l'argent, même quand on n'avait pas d'argent. Alors, bien sûr, pas du tout les mêmes sommes. Mais si tu veux, on a toujours, avec Brenda, depuis qu'on est mariés, donné de l'argent. Brenda s'est toujours impliqué au niveau bénévolat dans une école dont on supporte beaucoup, dans un quartier défavorisé de Boston, avec beaucoup d'immigrants de Porto Rico, Cuba, etc. Et elle y passe du temps. On a donné un petit peu d'argent à l'époque avec ce qu'on pouvait financièrement. Et donc, ça a toujours été quelque chose de naturel pour nous. Et donc, et comme je pense, j'espère que tu sais, et puis que les gens comprennent avec ce qu'on vient d'expliquer, que le but de Monera, ce n'était pas faire de l'argent, le but de Monera, c'était faire des produits extraordinaires pour sauver les vies de beaucoup et d'aider beaucoup de gens au niveau santé. La conséquence, dans un monde capitalistique, d'avoir eu des actions en tant que dirigeant et fondateur, et investi à chaque tour de table. Je suis la seule personne dans le monde qui investit à chaque tour de table nos économies, quoi.
Et ouais, donc, elle t'aime, Brenda. Ouais. S'il est fou, mais je l'aime.
Exactement. Et donc...
Oui, mais justement, parlons de chiffres, ouais. Parce que tu as décidé à décrire cela. C'est-à-dire que vous allez sur le site de Moderna, vous allez voir sur le site le fait que tu t'es engagé dès 2021, à dire voilà, je vais donner... En somme, quelles sont les sommes que tu t'es engagé à donner?
Mais ça dépend de la valeur de l'action de Moderna. Donc, je ne sais pas si ce serait aujourd'hui, ça serait 2 milliards. Si c'était il y a 6 mois, c'était 4 milliards.
Voilà, donc
dans quelques années, ça sera, j'espère, 10 milliards.
Il faut bien comprendre, là, on n'est pas en train d'argent que... Ni toi, ni ton épouse, ni tes enfants, ni tes cousins, ni personne n'en verra la couleur puisque ça va être donné.
Ouais. Et donc, nous, on va essayer de donner, et ça, j'espère, l'essentiel durant notre vivant, mais quand personne prévoit le jour où il va mourir, on a aussi prévu, si tu veux, que les enfants soient les deux, parce qu'elles sont majeures maintenant au conseil d'administration de la Fondation, pour aussi commencer à leur expliquer comment ça fonctionne tout ça, mais aussi, elles ont chacun des sujets qui leur tiennent beaucoup à cœur. Et donc, depuis maintenant plusieurs années, elles ont un petit budget, toi, du style 10 000 euros à donner chaque année. Mais donc, elles doivent nous expliquer chaque année à quelle association elles donnent, pourquoi. Donc, elles font leur présentation, leur recherche et tout. Et l'autre partie du deal avec nous, parce que c'est facile de donner l'argent de papa et maman, c'est qu'elles doivent aussi y consacrer de leur temps. Donc, elles doivent être bénévoles dans cette organisation pour que nous, on puisse en donner les 10 000 dollars à cette fondation. Pour commencer, à les éduquer, à les former, mais pas que ça devienne un poids, parce qu'elles ont 19 et 21 ans, elles font leurs études, elles ont... Je veux qu'elles vivent aussi leur jeunesse, quoi.
Tu me parles souvent de tes deux filles. Quand tu leur as annoncé, parce que c'est ce que tu leur as annoncé, qu'il n'y aurait pas d'héritage, t'as senti une déception, un soulagement, même pas une discussion?
Non, il n'y a même pas eu de discussion. Donc il n'y avait pas eu de déception. En tout cas, elles n'ont pas montré. Elles n'ont pas parlé ni à leur père, ni à leur mère après. Ni de soulagement, en tout cas elles n'ont pas montré le soulagement. Je pense que quand on leur a dit, elles étaient encore trop jeunes pour comprendre le poids en fait que c'est d'avoir de décider, comme toi et moi on en parle souvent, à louer des capitaux aussi bien pour faire des profits dans le monde industriel qu'au niveau philanthropique, c'est pas facile. Je trouve que c'est même pratiquement plus dur dans le monde philanthropique que dans le monde industriel, où tu as des métriques claires comme le retour sur investissement, etc., que tu n'as pas nécessairement dans le monde philanthropique. Et donc, non, il n'y a pas eu ça. Ce qu'on leur a dit, et tu sais ce que c'est public, on a dit qu'on leur laisserait la maison de famille et qu'on leur paierait leurs études.
Il faut bien comprendre. Hein. Aujourd'hui, on dit que vous pesez des milliards de dollars selon le cours de bourse et que tu dis à tes enfants, on va vous payer vos études et vous aurez une maison à vous partager. On est d'accord, c'est ça. D'accord. Tu sais que ça, c'est quelque chose qui ne pourrait pas être fait en France?
Ouais.
Parce qu'en France, l'héritage est obligatoire, c'est la loi de Napoléon.
Sauf si tu as tout donné avant, s'il n'y a plus d'héritage.
Exactement. Sauf si tu as tout donné avant. Mais toi, c'est sur la loi aujourd'hui, puisque tu es résident américain. Tu fonctionnes. On parlait de conviction. Plusieurs patrons que j'ai reçus ici partagent cette vision-là. Ouais. Je parle d'Emmanuel Faber, l'ancien PDG de Danone, et président aujourd'hui de ISSB. Hubert Joly, l'ancien PDG de Best Buy. John Michael McBain, Patrick Pichette. Comment toi t'arrives à... Tu me disais ça d'une manière très simple, tu ne comprends pas pourquoi les gens qui ont ne partagent pas plus. Est-ce que tu partages ça avec d'autres personnes qui ont des moyens aussi importants? Est-ce que tu arrives à les convaincre ou est-ce que tu dis je rentre pas là-dedans? Est-ce que tu essaies d'être missionnaire là-dessus ou pas tant que ça?
Pas encore aujourd'hui, par vraiment manque de temps. Parce que le peu de temps que j'ai hors de Moderna, comme tu l'as dit, c'est vraiment dédié à comment est-ce que j'aide Brenda à donc donner de l'argent à des associations aujourd'hui. Essentiellement aux US, un petit peu en France, un petit peu en Inde. et à réfléchir justement à toutes les problématiques, à m'éduquer, parce qu'il y a plein de domaines qui m'intéressent, mais sur lesquels je ne suis pas un expert, donc j'ai besoin de beaucoup d'apprendre, etc. Parce que comme je t'ai dit, donner de l'argent, c'est en fait moins facile qu'on pense, surtout quand c'est des grosses sommes et des grands montants à donner. Mais une des raisons que j'en parle, quand on me pose la question, toi, j'avais Bloomberg et plusieurs journaux ou magazines ou, qui m'ont posé la question, c'est pour en parler, parce qu'effectivement, il y a des endroits... Je pense qu'aux États-Unis, ça se fait quand même plus qu'en Europe. Hein. C'est intéressant, cette différence culturelle. Et comme tu sais bien, parce que tu fais ça depuis beaucoup d'années aussi, en fait, tu réalises quand tu as beaucoup d'argent que tu n'as pas besoin d'argent. Tu as besoin, si tu manges bien, tu as une maison, etc. Tu n'as pas besoin de 10 maisons. Si tu veux, j'ai pas de montre, j'ai vendu ma voiture. On avait une petite maison de vacances au nord de Boston, et quand on l'a vendue, quand les enfants sont partis à l'université, ce que Brenda a dit, on va jamais y aller, autant qu'une autre famille en profite, etc. Donc on l'a vendue. Et donc je la vends, et puis après j'avais ma voiture, et elle me dit, bon maintenant tu peux vendre ta voiture. Je sais pourquoi tu veux vendre ma voiture. Je dis, tu marches au bureau, le seul moment que tu prends ta voiture, c'est quand tu es à la maison. Il n'y a plus la maison, tu n'as plus la voiture. J'ai la merde. La voiture, c'est mon seul jouet, donc j'ai vendu la voiture. Quoi.
Est-ce que tu as réussi à définir ta mission de vie aujourd'hui?
Pour moi, c'est aider les autres, quoi.
C'est ça. Et ça, tu l'as compris très tôt?
Ben, c'est là où je reviens sur mes parents et les jésuites, quoi.
Les jésuites. Les jésuites. Donc, ouais. Ton éducation, ouais. À l'école.
Et j'ai pas réalisé à l'époque, hein, parce que c'était normal. C'était... Mais non. Mais sur cet aspect de servir des jésuites, qui est vraiment au centre de tout ce que font les jésuites, a eu un impact sur mes décisions professionnelles et mes décisions capitalistiques au niveau donation importante.
Je vous propose maintenant une pause musicale. Stéphane, quelle est ta chanson culte?
La Garota de Ipanema de Tom Jobim.
On va en écouter un extrait.
Ah, porque estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, beleza que existe.
Pour terminer, passons à une pause flash avec quelques questions rapides auxquelles tu devras me répondre du tac au tac.
Okay.
On est d'accord? T'es parti? Comment aimerais-tu qu'on se souvienne de toi?
Parce que j'ai fait au niveau Moderna et puis ce que j'ai fait avec mes amis et mes enfants.
T'as du temps pour tes amis?
J'ai quelques amis, j'ai peu d'amis, mais je passe beaucoup de temps de qualité avec mes amis. Ouais.
Qu'est-ce que tu détestes le plus?
La méchanceté.
Quel défaut t'inspire un peu d'indulgence?
L'impatience.
C'est quoi ton plus grand regret?
J'en ai deux, en fait, qui sont liés au vaccin. Un, on a pris une dose de 100 mg, alors que maintenant on ne savait pas à l'époque, que 50 mg aurait suffi. Le vaccin Pfizer, pour les non-scientifiques, c'est 30 mg. Et donc, j'aurais pu faire deux fois plus de vaccins en 2021, donc aider deux fois plus de personnes. Et l'autre, c'est de ne pas avoir eu l'ambition de faire plus de doses. Donc à l'époque, comme je t'ai dit, quand j'ai dit aux équipes, on fait 1 milliard de doses, ils m'ont dit que j'étais fou. Mais à l'époque, si tu m'avais dit, est-ce que tu es capable d'aller dans une time machine, ouais. Une machine à remonter le temps et de me dire, Stéphane, le vaccin Astra va avoir des problèmes cardiovasculaires, le vaccin J&J va avoir des problèmes cardiovasculaires, Sanofi va être 1 an de retard sur une course d'un an, Novavax, l'autre vaccin protéine, va aussi 1 an de retard, ça va être toi et Pfizer. Ben, j'aurais essayé de faire 2 milliards de doses, quoi. Et donc, si tu sais, de mes deux regrets, j'aurais aimé partir au démarre avec une ambition encore plus grande de faire au moins 2 milliards de doses au lieu de 1 milliard, et puis de prendre une dose de 100 mg au lieu de 50 au lieu de 100, ce que j'aurais pu faire en fait 4 milliards de doses.
Quelle est la destination idéale pour faire une pause?
Sud de la France, dans notre maison. Et Brenda te dirait, tu connaîtras pas Stéphane tant que t'as pas vu Stéphane sur son bateau. Tu sais, j'ai grandi à Marseille.
T'aimes être sur l'eau, toi.
J'adore. C'est... la première photo de moi dans le livret familial des photos hors de la maternité était dans le cockpit d'un voilier. Et donc, j'ai passé ma vie sur l'eau. Ma grand-mère m'a appris à nager. J'étais tout gamin. Donc, j'adore la flotte. Quoi. Donc,
Mais tu n'as pas encore financé un de ces bateaux qui fait le tour du monde. Tu es fasciné par ces marins qui font le Vendée Globe, qui font... Le tour du monde.
Ah ouais, c'est quand j'étais gamin, je devais avoir, je sais pas, 12, 13 ans, j'ai lu un des bouquins de Tabarly, de sa première traversée de l'Atlantique en solitaire.
C'est fou.
Incroyable, quoi. Ouais. Les trucs de fou, quoi. Et puis, si tu veux, c'est intéressant, il y a aussi un entrepreneur que j'aime beaucoup, qui un jour m'a dit, parce que tu as lu la biographie de Magellan, pas la biographie, disons.
De Stephen Zweig.
Oui, exactement.
Bien sûr. Je vous le conseille à tous.
Hein, Stephen Zweig, ce livre.
D'accord. Stephen Zweig, qui est un auteur exceptionnel, qui écrit sur Magellan.
Voilà.
Tu parles d'aventurier.
Voilà.
Lisez ce livre-là.
Et cet entrepreneur, il me dit un jour, en fait, les entrepreneurs aujourd'hui, c'est comme les explorateurs du Moyen-Âge. Je dis quoi? Et puis j'ai réfléchi. Il me dit, lis le livre.
Ouais.
Je lis le livre.
Là, il nous donne une grande importance quand même. Hein.
Oui, alors je ne suis pas nécessairement tous les entrepreneurs.
Peut-être Moderna, peut-être.
Mais si tu veux, cet aspect de partir dans des mondes inconnus, sans carte,
ouais.
Sans savoir, je veux dire.
Oui, mais sauf qu'on sait qu'eux, il y avait quand même, tu l'as vu, il est parti de son point de départ, ils sont revenus, d'ailleurs sans lui, parce que Magellan est mort sur la route. Et
Philippine.
T'avais 10% du départ qui est revenu à la fin.
Ouais.
Ce qui est il y a quand même moins, c'est un peu moins risqué.
C'était moins risqué pour ta propre personne,
mais c'est l'idée
de partir sur un truc
l'aventure.
Que tu fais qui a jamais eu lieu, que personne n'a jamais fait dans le monde, comme faire de l'aérien messager, et de pas savoir si tu vas y arriver, si tu vas mourir en termes au niveau business et mettre tout le monde à la porte et toi aussi, etc. C'était l'analogie.
Stéphane, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci.
Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.